Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris, sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, merci, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 15 septembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 16, dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40 euros. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 0085, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Amis de la Résistance, bonsoir.
Bonsoir Serge.
C'est nous que v'là revenu après 50 jours d'absence.
Je le dis pour les auditrices, il est très beau.
Merci, merci Victor. Vous n'êtes pas mal non plus, il faut dire.
Merci.
50 jours de vacances. Je suis épuisé. C'est réussi.
L'auditrice, c'était 60 jours de prison.
C'était pas mal.
60 jours de prison.
Bon, ça va m'arriver, mais bon.
Oui.
Bien, ce soir, nous allons parler de l'actualité, bien sûr, nous allons deviser avec les personnalités dont les noms suivent, y afférentes. Tiens, au fait, Patrick Goffman est parmi nous, non pas sous la forme d'un morceau de viande vivante, mais sous la forme d'un superbe portrait qui a été fait par notre ami Redon. Alors, on a posé le portrait de Goffman devant nous, et d'ailleurs, Chirigas l'a retiré. Je sais pas, c'est une petite jalousie, peut-être, non?
Oui, non, je n'avais pas voulu me le piquer.
Ah oui, c'est ça. Il est très très bon, Goffman, je n'avais pas remarqué.
Je suis pas mal non plus.
Oui, c'est vrai, vous êtes très bien aussi.
Je signale d'ailleurs, il a dit que vous étiez les cariatides du Libre Journal. Non, nous sommes les Atlantes.
Les Atlantes, hein,
quand même, oui.
À propos d'Atlantes, ça n'a absolument rien à voir, mais je signale quand même que Pierre-Marie, qui était parti au Mexique, a failli en revenir. Pierre-Marie, c'est notre prof de piano sans solfège, et non pas sans tabouret, bien sûr.
C'est un cas.
C'est d'accord. Alors, il était parti au Mexique pour voir les Atlantes et il a failli en revenir dans une boîte oblongue. Il est pratiquement mort d'inanition. Ouais, parce qu'il est parti à l'aventure à son âge, comme ça il a fait des centaines de kilomètres sans manger, sans boire, il a failli claquer. Alors, enfin, ça va mieux, il est pratiquement sauvé, pratiquement. Et il reviendra nous voir et nous donner de ses nouvelles bientôt. C'est pas bon, René Feijan, de l'inanition, c'est pas un bon plan, hein.
Non, c'est pas recommandé, et quand on part dans des voyages aussi importants, aussi périlleux, et bien on prend des précautions, on se renseigne au préalable, et on fait le nécessaire pour éviter ce genre d'ennui.
Il joue du piano sans méthode, mais il devrait voyager avec méthode.
Non, sans méthode. C'est pas sans méthode, sans solfège.
Sans solfège, ah oui, alors ça ne marche pas, mon truc.
Alors, à propos de piano, alors là, non pas sans solfège, je le signale tout de suite, Madame de Bézieux, qui est prof de piano, qui est extrêmement talentueuse, organise avec un de ses élèves pour montrer ce qu'on... Mais elle, c'est le piano avec solfège, hein. C'est la méthode classique.
Oui.
La rose, la bleue, etc. Sérieuse, etc. Enfin, ça ne veut pas dire d'ailleurs que Pierre, c'est pas sérieux, mais...
La preuve, c'est que vous arrivez à jouer.
Voilà. Oui, c'est dire le sérieux de la chose. S'il est arrivé à me faire jouer du piano. Enfin, bon, n'épiloguons pas trop là-dessus, parce que c'est quand même pas Paderewski, hein, on n'est pas rendu. Donc, elle organise un dimanche musical le 10 octobre. C'est à côté de Lisieux. Je le dis aujourd'hui pour les habitants de la région et de la région parisienne, d'ailleurs, parce que Lisieux, c'est pas loin du tout. Je donnerai plus de détails, mais ce sera une journée qui peut être sympathique, une espèce de jouant du piano sous les pommiers. Vous savez qu'il y aura également le rire sous les pommiers organisé par Anne Brassier. Et dans le même coin, tout à côté, pas le même jour, bien sûr, il y aura un jouant du piano sous les pommiers. Où elle montrera ce qu'on peut faire avec un élève pas doué, c'est pas moi d'ailleurs, je le dis, en 4 ans de travail, piano à 4 mains. Alors je donnerai plus de détails, mais ça sera une journée pique-nique, etc. Ça peut être extrêmement sympathique, et je vous invite à réserver votre journée du dimanche 10 octobre de 11h à 18h. Voilà, ça j'ai pas oublié cette annonce.
Ça sera aux pommes.
Pardon ?
Ça sera aux pommes.
Ça sera aux pommes, oui, c'est ça. Il est très brillant.
Ah oui, ça va pas durer.
Il est éblouissant, il est très très fort. Vous pouvez rentrer, docteur Planté, hein, si... Non, il ne voulait pas, il ne veut pas rentrer.
Il va se mélanger.
Il est dans le bocal avec Franck. Donc, c'est les invités de ce soir, Jean-Paul Chérigues d'Olmeta, que vous venez d'entendre, qui fera la minute du marquis à un moment quelconque de la soirée.
La quelconque minute, d'ailleurs.
Jédy Goffman qui prendra la parole au téléphone. Pierre Descaves. Alors Pierre Descaves qui est ancien député. Et Pierre nous dira tout à l'heure tout ce qu'il a fait dans sa vie. Non, ça risque d'être un peu long quand même.
Oui.
Enfin, deux, trois choses qu'il a fait dans sa vie, y compris les choses inavouables.
Non, celle-là, il ne les racontera pas.
Bon, il ne les racontera pas. D'accord. Alors, il viendra nous présenter une nouvelle initiative qu'il a prise avec justement René Féjean. Qui s'appelle la Fondation France Résistance. Enfin, il vient nous présenter, on en parlera tout de suite, France Résistance. Et nous aurons également le docteur François Planté, qui est là, mais qui est encore dans le bocal. Il ne veut pas rentrer dans le studio tout de suite. Le père Jean-Paul Argouache, qui viendra traditionnellement nous donner des nouvelles du village d'enfants de Riomont, du village du Garveur. Tout ça, ça tourne rond, ça marche, mais il faut quand même que... il paraît que la République marche au mélange, et les institutions du père Argouache, elles marchent à la charité fraternelle. Donc, on en parlera. Et puis, nous recevrons Monsieur l'abbé Laguéry, qui viendra nous exposer son point de vue sur la situation actuelle de ce qu'il faut bien appeler un conflit à l'intérieur de la fraternité Saint-Pédis. On a besoin de ça, d'ailleurs, parce que il suffit que je parte en vacances, c'est le bordel généralisé. Je constate que quand je suis pas là, alors au Front National, on se tire la bourre, à la fraternité, on se fâche, les monarchistes se bouffent le nez.
Oui, j'en parlerai.
Hein?
J'en parlerai.
Vous en parlerez, voilà.
Tu devrais plus prendre de vacances.
Non, je vais arrêter, parce que franchement...
Oui.
Mais vous êtes terribles, les enfants. On peut pas vous laisser tout seul 5 minutes. C'est comme un fermier.
5 minutes, vous poussez un peu.
Hein?
5 minutes, vous poussez un peu.
Mais, en plus, enfin, franchement... Je ne veux pas essayer d'être désagréable, mais est-ce que vous croyez vraiment que la France a besoin de ça, hein? Je pose la question. Est-ce que vous croyez vraiment que la France a besoin que les abbés se fritent avec les fidèles sur le parvis de Saint-Nicolas? Parce que c'est quand même ce qui s'est passé dimanche dernier. On croit rêver. Enfin, c'est plutôt un cauchemar qu'on croit.
Si je vois juste par les messages qu'on a reçus, ça ne m'étonne pas.
Ça vous étonne pas?
Ah non, parce qu'alors on recevait des messages, vraiment, c'était Savonarole à l'assaut, tuez-les tous du rock'n'roll à les siens. Oh là là là.
Ça va, moi, je crois que c'est partisan de ça, effectivement.
Ça va être très dur de jeter un voile sur l'affaire.
Oui, bon, enfin voilà. Donc tout ça pour vous dire qu'il y a de fortes raisons de se réjouir, et c'est ce qu'on va faire. Donc, il y a un moment où le grotesque atteint de tel niveau qu'on ne peut qu'en rire. Ou alors faire ce que fait Pierre Descaves, c'est appeler à la résistance.
Exactement.
Alors Pierre, commençons tout de suite.
Bonsoir à tous les auditeurs.
Je parlerai de l'actualité au cours de la soirée. Je voudrais quand même faire une suggestion, parce que elle n'est pas de moi, c'est un ami qui m'a envoyé un petit mot. Je suis quand même étonné que les gens pourtant brillantissimes qui sont au pouvoir en France, espèce de des gens qui sont à la fois intelligents, honnêtes, droits, entreprenants, courageux, libres, indépendants, n'ont pas eu une idée qui paraissait s'imposer dans l'histoire des otages. Pourquoi ils n'ont pas envoyé le préfet d'Ermouche récupérer les otages? Parce que le préfet d'Ermouche, bon, d'abord, il a une connaissance, je dirais, naturelle du milieu musulman, puisque c'est son milieu d'origine. Alors, c'est un préfet. Donc il est tout à fait à même de régler des problèmes de genre. Et puis quand même, il a une forte expérience du terrorisme. Il ne faut pas oublier qu'il a été victime à 3 ou 4 ou 5 reprises ou 6 reprises, je ne sais pas combien, d'un terrorisme absolument terrifiant, puisque une fois on a mis un pétard pirate sous le capot de sa voiture, une autre fois on a mis un pétard allumette dans sa boîte aux lettres, la troisième fois il y a quelqu'un qui a mis un peu de goudron sur la porte de son jardin. Ouais. Non mais bon, alors que c'est quand même, c'est dangereux d'être préfet en France.
Ouais, oui.
Et donc là, en plus on pouvait le soustraire au terrorisme français, l'envoyer vers les islamistes, ça aurait été... Et bien personne n'a eu cette idée.
Non mais on a fait mieux quand même, on a envoyé le Conseil national de l'islam en France.
Oui mais ça c'est
quand même beaucoup plus haut.
Qu'on les ait envoyés, je trouve ça très bien, mais qu'on les ait fait revenir, c'est ça qui n'est pas une bonne idée du tout.
Ils sont revenus, ça
m'a fallait... Non mais ne prenez pas mal ce que je dis.
Non.
Je ne veux pas dire qu'il fallait les exiler, je veux dire qu'il fallait les laisser sur place pour
jusqu'à ce
comme on dit également, gérer le dossier.
Absolument.
Jusqu'à ce qu'ils les ramènent. Vous imaginez le succès qu'ils auraient eu, hein,
en
rentrant avec les deux otages sur le dos et tout.
Fantastique.
Non, puis c'est raté. Non, cette affaire est mal
connue. Ton idée n'est pas valable.
Non.
Non,
alors
ça j'aurais pas fait mieux.
Ça fait comme des jours et des jours qu'on nous dit, ça y est, ils vont rentrer. Mmh. Moi, je voudrais dire à Barnier, à Villepin, même à Chirac, s'il m'écoute,
oui,
je sais qu'il m'écoute d'ailleurs,
oui.
Vous ne devriez pas vous engager comme ça trop rapidement, parce que ça va finir par vous faire perdre le crédit que vous avez auprès des Français.
Mmh.
Les Français ont une confiance absolue et méritée dans leur personnel politique. Il ne faut pas prendre le risque de réduire, de porter atteinte à cette confiance naturelle et qui est saine pour la démocratie, qu'on appellerait une confiance citoyenne en somme.
Oui.
Donc il ne faut pas porter atteinte à la confiance citoyenne parce que vous leur dites, vous savez, c'est un peu comme l'histoire du berger Guillou qui criait au loup, au loup, au loup, au loup. Alors les gens du village se portaient à son secours, puis ils se moquaient d'eux parce qu'il n'y avait pas de loup. Et un jour, le loup est venu, il a crié au loup, les villageois sont pas venus, et le loup l'a bouffé. Alors,
c'est
si
le RER, c'est la synagogue, c'est... Voilà.
Voilà. Ouais. Si les hommes politiques commencent à mentir, parce qu'à Dieu ne plaise, mais je crie « Hola !»
Hein? Il y a pire, à mon avis, c'est qu'ils ne connaissent pas la mentalité arabe. Parce que s'ils la connaissaient, leurs agissements devraient être totalement différents. Il y a un proverbe qui est très significatif. Si tu es mouton, je suis lion. Si tu es lion, je suis mouton. Et celui-là est applicable à tous les coups. Or, qu'est-ce qu'on fait actuellement? On va se traîner au pied de leur babouche en les suppliant de faire quelque chose. Ils ne donneront rien.
Ben,
c'est clair. Ils peuvent toujours aller se prosterner, ça ne changera rien.
Je ne sais même pas si c'est une spécialité liée au fait que ce sont des preneurs d'otages arabes ou islamiques. Ce sont des gens qui agissent comme n'importe qui. Il est évident que quand on veut forcer la main de quelqu'un et qu'on voit que ce quelqu'un est en train de marcher dans la combine, ouais, on pousse son avantage à chaque fois. Enfin, c'est tellement évident. C'était bon, mais
c'est comme ça.
Ça ne doit pas être enseigné à
l'ENA.
À l'ENA.
Oui, voilà. Le sens du kidnapping, il est évident.
René Fréjean.
Ça consiste à pouvoir prendre en otage certaines personnes, de manière à ce qu'on fasse une campagne médiatique mondiale, gracieusement, pour assurer sa propre publicité ou terroriser les autres nations européennes ou mondiales. Donc, du point de vue du kidnapping, ils sont parfaitement congruents avec leur stratégie. Maintenant, c'est la nôtre qui ne l'est pas, parce qu'on leur donne le maximum d'audience et ça renforce leur crédibilité et leur puissance et la dissuasion dans le monde, tout simplement.
Ouais. C'est exactement ça. Et à côté de ça, quand Poutine fait ce qu'il faut faire, c'est-à-dire il dit, bon, écoutez, on est en guerre. Donc dans une guerre, il y a des morts des deux côtés. Je suis désolé pour les habitants d'Ossétie, de Beslan en Ossétie, qui vont être les victimes de cette guerre entre le terrorisme et le pouvoir légal. Mais une guerre ne se fait pas sans mort, c'est évident. Alors c'est terrible à dire, mais je rappelle ce que j'ai dit l'autre jour. On a été beaucoup, beaucoup moins indignés par la mort de dizaines de milliers de Français bombardés par les forces anglo-américaines qui voulaient chasser les Allemands de France, qu'on a été indignés par les 339 morts de Beslan qui ont été tués au cours de combats voulu par des terroristes. J'ajouterais que la différence de tout ça, c'est que de toute façon, étant donné les dispositions prises par les terroristes islamistes tchétchènes, les gens qui étaient prisonniers dans l'école de Beslan, ils étaient condamnés à mort.
Absolument.
Ça faisait 53 heures qu'ils n'avaient ni bu ni mangé, et ils étaient entièrement ficelés d'explosifs, etc. Donc, de toute façon, ils étaient condamnés à mort. La seule chose à faire, c'était de tenter une intervention, et de gagner la mort de vitesse. Ça a été fait quand même pour plusieurs centaines de personnes. Il y a eu 339 morts, c'est une tragédie. Mais on peut dire que, contrairement à ça, les habitants de Rouen, les habitants de Saint-Lô, les habitants du Havre, ils n'étaient pas condamnés à mort par les Allemands. C'était pas du tout la même chose. On les a tués au nom du fait qu'on était en guerre. Et je dirais, c'est horrible ce que je veux dire, mais c'est normal. Dans une guerre, il y a des victimes civiles. Si on pouvait faire des guerres avec uniquement des victimes militaires, je serais, en tant que civil, le premier à m'en féliciter. Mais ça marche pas.
Non.
Ça existe pas. Donc, enfin, ça existait au Moyen-Âge, à l'époque ténébreuse du Moyen-Âge, où il y avait que les soldats qui s'entretuaient. Mais nous avons fait des progrès avec la Révolution, et maintenant, il y a beaucoup plus de morts civiles que de morts militaires.
C'est grâce
à la Révolution. Et puis, vous avez vu cette histoire. Alors, on va peut-être démarrer avec ça. Mon cher Pierre, tu as vu cette histoire des clandestins dans le Figaro ce matin. Le Figaro nous apprend qu'il y a en France, en dehors des clandestins, ce qu'on appelle les clandestins, c'est-à-dire les immigrés illégaux, les hors la loi, il y a 250 000 personnes qui sont restées en France après être venues demander un statut de réfugié et se l'être vu refuser. Hein? Donc, l'OFRAP a refusé à plusieurs centaines de milliers de personnes. 80% des demandeurs voient leur demande rejetée. Et 80% des gens qui voient leur demande rejetée restent. D'ailleurs, ça montre à quel point on a un État qui est fort, qui dit attention, faut pas rigoler. Hein,
il y a nous, l'autorité.
Hein, quand c'est non, c'est non, hein, c'est bien clair. Hein. Alors vous demandez un statut de réfugié, c'est non. Et maintenant vous allez rentrer chez vous. C'est alors bon. Le gars dit non. Bon, très bien, mais attention, hein, parce que pas exagérer quand même. Hein. Alors 250 000 qui sont en France, il y en a 62 000 qui sont considérés comme inexpulsables. C'est-à-dire il y en a quand même, donc si je sais compter, 188 000 qui sont expulsables et qu'on n'expulse pas.
Ben non.
On se demande bien pourquoi.
C'est trop simple.
Et sur les 62 000, il y en a 20 000 qui ont des enfants qui sont français. C'est superbe. Alors, quand on veut les chasser, on leur dit, bon, alors maintenant, il faut partir, on n'est pas chez vous, on n'a rien à faire ici. Oui, je veux bien partir, mais mes enfants sont français. Ah, dilemme, comme dit l'autre.
Oui.
Alors, au lieu de leur dire, ben, vous n'avez qu'à faire naturaliser vos enfants dans le pays d'origine, on leur dit, ben, vous n'avez qu'à rester avec vos enfants. Alors, ça veut dire que ces gens-là, ils sont ici hors la loi, donc ils ne peuvent pas travailler. Bon. Et ne pouvant pas travailler... Ben non, il n'y a pas un employeur qui peut les embaucher.
Et le noir.
Ah ben voilà, seulement au noir. Donc ils sont, ou ils sont employés au noir, et à ce moment-là ils font deux délinquants, eux-mêmes et le patron qui les emploie, ou alors ils sont obligés de survivre, les malheureux. Et comment survivre? On fait des petits commerces, on fait des petites affaires, on vend des briquets dans la rue, des paires de lunettes Chanel, qui sont pas plus Chanel que moi, et puis on se fait piquer par les flics, et puis après on dit, le Chanel c'est quand même très risqué par rapport à autre chose, puis on vend autre chose, et puis voilà. Et on crée de la délinquance, bien entendu. Mais ça, c'est tout à fait naturel que les gens qui n'ont pas de moyens d'existence se rabattent sur la délinquance.
Si vous voulez me demander mon avis là-dessus.
Oui, et je voulais ajouter un détail, c'est que, j'ai pas dit, j'ai dit 20 000 inexpulsables, mais il y en a 62 000, j'ai dit inexpulsables, c'est pas ça que je veux dire. C'est 62 000 qui sont entièrement à la charge de la collectivité nationale. C'est-à-dire qu'on dit à des gens... Vous ne pouvez pas rester, vous n'êtes pas ici, il faut partir, mais quand vous partez pas, on va vous donner du fric pour rester.
Exact.
Vous imaginez, vous rentrez chez vous, il y a un type qui est installé dans votre salon, et dites, monsieur, vous n'êtes pas chez vous, il faut partir. Non. Ah bon, d'accord, qu'est-ce que vous prenez comme apéritif? Petit whisky, voilà. Et puis, pendant le matin, vous préparez la chambre d'amis, est-ce que vous n'êtes pas contre le porc? Parce que souvent, on avait prévu de manger des côtelettes de porc, mais si vous voulez, on peut les supprimer du menu, hein. On mangera plus de porc à la maison, parce que ça peut vous gêner. Voilà. Mais c'est quand même, et après, le gars dit à ses enfants, vous avez vu un peu, moi, je me laisse pas monter sur les pieds.
Marthe Richard a été plus efficace avec les clandés, hein.
Ce que je peux dire au sujet de cette question, formation précise. C'est que il faut monter un échelon au-dessus. En réalité, il y a une tentative, et c'est d'ailleurs ce qui va expliquer un peu tout à l'heure pourquoi j'ai essayé de créer cette coordination de France Résistance. Il y a un désir forcené des autorités mondiales de changer la population française. Il faut impérativement diminuer la population indigène, qui les gêne, elle est chrétienne, elle a beaucoup de tares. Et en revanche, augmenter la population immigrée, qui en général d'ailleurs est de pays d'islam ou noir, et ce transfert de population se fait de deux manières. La première, c'est que la population indigène c'est nous, hein,
autochtones.
Nous sommes les indigènes de France.
Aborigènes.
On n'y peut rien. Et elle, on l'attaque par tous les bouts. L'avortement, les contraceptifs, l'élimination des bébés dans le ventre de leur mère. Donc on les tue à la naissance, on essaye de diminuer au maximum les arrivées de populations indigènes. Et maintenant, ils ont imaginé, c'est formidable, maintenant on va tuer les vieux. Mais on est vieux à quel âge, on n'en sait rien. Moi, il y a longtemps que je serais mort avec leurs idées. Mais on les tue pas pour hériter, on les tue parce que on veut pas qu'ils souffrent. Les pauvres vieux. C'est l'imbécile de Douce Blasi qui a dit ça, qu'il faut tuer les vieux pour pas qu'ils souffrent. Donc voilà d'un côté. De l'autre côté, on fait entrer en masse des immigrés. Et quand ils sont rentrés sans avoir le droit d'y être, sans avoir aucun droit, sans avoir rien, ben on les garde. Et c'est ça ce que tu signalais, ça fait partie du complot général de changement de population. Et je te dis que ça va se poursuivre. C'est mon idée. D'où France Résistance, je te dirai après pourquoi.
Alors, René Feugeant veut dire quelque chose.
Oui, ce qu'on peut dire, c'est qu'actuellement, les guerres conventionnelles étaient des guerres armées. Maintenant, ce sont des facteurs d'immigration. C'est-à-dire que on conquiert un pays sans armes, et en utilisant les subsides du pays dans lequel qu'on va envahir. Mais autrement dit, si on vient rétrospectivement à la dernière guerre, si les Allemands avaient eu l'intelligence des musulmans et étaient venus en France
avec
sans papiers,
des valises en carton bouillé,
oui, et sans papiers, eh bien on les aurait accueillis volontairement, bien volontiers.
On peut pousser même ce raisonnement un peu plus loin si on est amateur de paradoxes. Imaginez que le regretté chancelier ait dit, et c'est ce qu'il disait d'ailleurs, il disait aux gars, vous obéissez à mes ordres, ou sinon vous êtes fusillés. Bon, je vous donne l'ordre d'envahir la France. Les gars disaient, non. Bon, alors je vais vous fusiller. Vous avez deux jours, ou alors foutez le camp de ce pays. Vous avez 2 jours pour foutre le camp. Alors les gars venaient en France en disant, on demande le statut des réfugiés parce qu'on ne veut pas envahir la France, ils veulent nous fusiller, donc vous êtes obligés de nous accueillir comme réfugiés.
Oui.
Bon, très bien, vous êtes combien ? 800 000. Bon, entrez, messieurs, vous êtes réfugiés, on va vous payer et tout. C'est ce qui s'est passé. Parce qu'on a quand même payé et tout. Et ils nous ont bouffé tout ce qu'ils pouvaient bouffer. Mais on aurait au moins économisé pas mal de misère. On aurait économisé des morts. Et Adolphe aurait été content parce qu'il voulait des hommes en France, il les avait. Les gars étaient contents parce qu'ils auraient été tranquillement. Puis nous, on aurait été contents puisqu'on aime ça, accueillir les réfugiés. Donc, vraiment, je crois que le plus gros reproche qu'on peut faire en dehors de tout ce qu'on peut reprocher au regretté chancelier, qui s'est très très mal conduit sur toute la ligne, hein. Ça, qu'on soit bien clair là-dessus.
Oui,
mais en plus, il a été bête.
Hein.
C'était tellement simple de dire, si vous ne envahissez pas la France, je vous fusille. Et les gars venaient se réfugier en France en disant, j'aurais dû être fusillé.
Statut de réfugié.
Voilà. Bon. Donc, un coup raté.
Eh oui.
Alors, je veux dire qu'au pouvoir, à l'époque, c'était pas ce qu'on a aujourd'hui. Hein. Ça aurait peut-être pas marché de la même manière, parce que je vous rappelle qu'à l'époque, il y avait au pouvoir un socialiste qui avait fait imprimer un timbre dont le texte était, il y avait une femme blanche qui portait un bébé blanc dans les bras, et le texte, c'était « Pour sauver la race ».
Ah bon ?
Ouais.
Il était socialiste.
Il était socialiste.
Oui, mais pas national-socialiste. Socialiste de chez socialiste. Il avait même été accusé d'avoir déserté pendant la guerre de 14-18. Et c'était Monsieur Salengro, Alphonse Daudet, si je ne me trompe pas, appelait propre Angro.
Propre Angro, Salengro.
Et donc le socialiste Salengro voulait sauver la race française.
Oh là là.
Et c'était, il parlait pas de bétail. Il voulait sauver la race française. Et son slogan, c'était acheter français des produits fabriqués par des ouvriers et des paysans français.
Et c'est lui qui a fait voter la fameuse loi sur la préférence nationale.
Absolument. Il a fait voter la loi sur la préférence nationale. Et voilà, un type, aujourd'hui, il serait en tôle.
Absolument, ah ben comment, oui.
Voilà. René Feijan, vous vouliez dire quelque chose, non ?
Oui, je voulais rajouter simplement une chose, c'est que France Résistance actuellement, eh bien, trouve sa justification dans le fait que la France entière se laisse faire sur beaucoup de plans, tout simplement. Et moi, ce qui m'intéresse en tant qu'initien, c'est pourquoi les Français ne réagissent plus comme au temps de la Révolution et se laissent faire de cette manière. Eh bien, on prend en considération plusieurs facteurs. Le premier, c'est qu'on est le premier consommateur au monde global de médicaments, premier consommateur de neuroleptiques, de tranquillisants, d'hypnotiques et de sédatifs divers.
Ou autrement, en plus, ils ont encore la force de regarder
autrement
la
dit,
télé, hein.
ça ne suffit pas. On a le record mondial aussi de consommation d'alcool. Alors, la France, elle est complètement droguée et sous le contrôle des multinationales pharmaceutiques. Alors, on est pacifié par la pharmacologie, tout simplement. Alors, le trou de la sécurité sociale, je viens d'apprendre ce matin, qu'il a triplé d'une année sur l'autre. Alors, il ne faut pas s'en étonner. Les gens font de plus en plus appel aux médications, à des protèges chimiques, parce qu'ils ne sont plus capables de s'assumer dans la vie de tous les jours. Ça devient dramatique. Et j'ai aussi entendu une autre nouvelle qui est fraîche, qui est de ce matin. Il y a 5000 médecins qui travaillent en tant que chirurgiens dans les hôpitaux français et qui se substituent littéralement aux chirurgiens français.
Oui, mais il n'y a pas de chirurgiens français. C'est ça le problème.
Il y en a très peu.
Premièrement, il n'y en a pas. Deuxièmement, on ne veut pas les payer. Alors, évidemment, quand j'ai été hospitalisé, j'ai été opéré par un chirurgien français, lui-même français.
C'est pour ça que tu es encore en vie.
Oui, enfin, j'étais français. Moi, je pensais, quoi, voilà. Bon, voilà. Et puis son assistant, c'était un jeune Marocain. Et ce jeune Marocain, il était absolument charmant. Et il venait me voir, d'ailleurs, c'était délicieux parce qu'il venait me réconforter. Alors, il s'asseyait au pied de mon lit, il me prenait la main, il prenait un air absolument consterné, il me disait. Non, ça va aller, vous inquiétez pas, monsieur, ça va aller, vous allez voir, ça va aller. Je disais, je vais crever, moi, tel que... Allez, il fait une tête, avec cette tête comme ça, il est en train de m'annoncer que je vais crever dans la nuit. Mais bon, il me racontait comment il travaillait. Ce sont des esclaves. Il y a une hypocrisie formidable dans ce système. On fait travailler ces jeunes médecins étrangers 70 heures par mois. Oui. Et ils n'ont pas... Par semaine. Et ils n'ont pas le droit de travailler. Ils sont illégaux. Mmh. On les met dans une situation illégale. On n'a pas le droit de le faire travailler, il y a une loi qui l'interdit. Et bien on les fait travailler quand même. Pourquoi ? Pour des raisons financières, tout simplement. C'est invraisemblable, cette histoire. Et alors, on nous reproche à nous, qui disons, mais il n'y a qu'à former des médecins en France, il n'y a qu'à utiliser des médecins français. On organise des trucs comme Médecins sans frontières pour envoyer des médecins en Afrique, et on fait venir des Africains pour être médecins en France. Enfin, de qui se moque-t-on ?
Alors Serge, je voudrais attirer ton attention sur une stratégie qui est véritablement une manipulation. Quand on voit le déferlement de l'immigration en France, eh bien, il faut se poser la question, pourquoi et quels sont les avantages de cette immigration et qui sert-elle préférentiellement ? Alors tout simplement, on importe en France des populations d'immigrés, de gens qui sont indigents et on crée une sous-classe prolétarienne de manière à pouvoir les utiliser, les faire travailler à vil prix quand ils travaillent, parce que la plupart ce sont des assistés. Et à partir de cela, quand la population française eh bien, se voit prendre des places sur le marché du travail et qu'elle a l'impudence de réagir en disant mais et nous en tant que Français, nous aussi on a besoin de travailler, eh bien on les traite de racistes tout simplement et on les neutralise. Là il y a manifestement une manipulation qui est extrêmement bien orchestrée par les multinationales étrangères, c'est-à-dire que maintenant on est en train de discuter de l'Europe, elle est morte. On est sous la tutelle américaine et on est dans le mondialisme à fond, si bien qu'il y a que quelques familles dans le monde qui sont en train de régenter l'économie mondiale et qui font que certains Français deviennent de plus en plus riches et d'autres de plus en plus pauvres. Mais actuellement, on a une neutralisation complète de la réactionnalité française par un phénomène de culpabilisation qui est basé sur la culpabilité de la dernière guerre en ce qui concerne le racisme.
Alors, il y a notamment, récemment, ça c'est très intéressant, William Goldnadel, le maître Goldnadel, a fait un entretien qui était destiné à François avec Alain Soral, l'écrivain. Golnadel explique que dans cet entretien, alors il faut savoir que cet entretien a été recueilli par François, il a été retouché, caviardé, édulcoré, coupé, etc. Et finalement, ils ne l'ont pas publié. Et c'est un site juif, israélien, qui a publié cet entretien. Ce site s'appelle Gizan Israël. Ils ont publié l'intégrale de l'entretien entre William Golnadel et Alain Soral. Alain Soral, il est pro-palestinien. Il a soutenu la liste Euro-Palestine aux dernières élections. Et Golnadel, il est vice-président de France Israël. Bon, on peut penser qu'ils vont se bouffer le nez pendant deux heures. Pas du tout. Ils tombent d'accord sur au moins un sujet. C'est exactement ce que disait René Feijan. Golnadel dit, la France est en train de perdre ses valeurs et de détruire ses institutions à cause d'un phénomène qu'il appelle, lui, Golnadel, la martyrocratie.
Ouais, très bon. Très bon.
Il faut lire cet entretien. Je vais en publier un extrait dans le Libre Journal parce que tout le monde n'a pas Internet et c'est vraiment... Parce que Golnadel, c'est une intelligence éblouissante. Hein, c'est vraiment... Et Soral n'est pas bête non plus, d'ailleurs. Et c'est un entretien passionnant. Mais il est tellement explosif que François a renoncé à le publier après l'avoir sollicité, obtenu, corrigé. Et c'est cet argument de la martyrocratie. Et Golnadel dit, le plus mauvais service qu'on a rendu aux immigrés maghrébins en France et aux jeunes maghrébins, aux jeunes beurs, c'est de leur donner de pratiquer la morale de l'excuse, la politique de l'excuse. C'est-à-dire, quoi qu'ils fassent, ils ont l'excuse d'être des anciens coloniaux, d'être des opprimés, des anciens colonisés, des opprimés, etc. Et il dit, le résultat, c'est que aujourd'hui, quand un flic est tué dans une banlieue, personne ne bronche. Si un flic tue quelqu'un, ça provoque un cataclysme. La justice est aux ordres de ce système, l'éducation nationale est aux ordres, et toute la France est à plat ventre devant les martyrocrates. Je trouve la démonstration absolument définitive.
Hein. Lumineuse.
Lumineuse, voilà.
Mais d'un autre...
Nous, on n'est pas partisans de la martyrocratie.
On en est plutôt victime actuellement.
Oui. Et alors, je voudrais qu'on revienne maintenant précisément sur France Résistance. Oui. Dans la situation actuelle, j'en ai touché un mot tout à l'heure. Pierre, tu as été député du Front National, tu es membre du bureau politique du Front National, tu es une des grandes figures du Front National autour de Le Pen depuis aussi un des fondateurs, on peut dire le mot, une des grandes figures. Ça pourrait paraître comme une espèce de retrait par rapport au Front. Est-ce que ce que veut obtenir France Résistance? Ça doublonne pas, hein.
Pas du tout, parce que justement l'idée que j'ai eue avec mes amis, ça a été de nous placer en dehors des partis politiques. Les partis politiques vont faire campagne pour le non au référendum, parce que le but final, hein, c'est ce référendum qui doit détruire définitivement la nation française. Personne ne le sait encore, on a l'impression de nager dans le rêve. La nation française n'existera plus au lendemain du référendum. Il y a une constitution européenne qui est au-dessus de la constitution française et la constitution française devient obsolète. Donc il y a deux partis politiques pour le moment, plus quelques individualités comme Fabius, qui préconisent le non. C'est le Front National et c'est le MPF de Devilliers, Philippe Devilliers. Ces deux partis, dans leur domaine, vont mener campagne. Mais, moi je dis, mais que chaque Français qui veut rester, qui a au cœur la patrie, qui a ses morts, qui a son territoire, chaque Français doit se réveiller, doit se lever. Et c'est pour réveiller le Français de base, et pas l'homme politique. L'homme politique, s'il est conscient, il doit être réveillé tout seul. Mais le Français de base qui ne voit pas où on veut le mener, qui est manipulé par les médias, celui-là, il appartient à qui ? Aux associations, aux mouvements patriotiques, d'anciens combattants, ceux qui défendent la culture française, ceux qui défendent le droit de naître, tous ceux qui défendent une partie de ce qui est notre civilisation chrétienne. Tous ces mouvements doivent s'unir sur un projet, faire voter non au référendum et refuser l'entrée de la Turquie dans l'Europe. C'est tout ce que nous leur demandons. Il n'y aura pas de candidat aux élections, il n'y aura rien. France Résistance est un mouvement de résistance. Il se bat pour deux choses, faire voter non au référendum interdire l'entrée de la Turquie.
Alors quand tu entends Fabius dire qu'il appelle à voter non au référendum, non.
Mais il est en politique, alors lui il le fait sur le plan politique.
Tu acceptes, donc le France Résistance, c'est un mouvement qui va accepter
les associations.
La participation de toutes les associations.
Toutes. Oui.
Mais donc il n'y aura pas d'adhésion individuelle à la France Résistance.
Si. Toute personne qui voudra participer à notre campagne, on enverra des documents pour le faire, pourra distribuer dans son quartier, dans sa maison, autour de lui. Mais il faut que cette constitution ne soit pas adoptée. Il faut que Chirac prenne la gifle de sa vie. Lui, il veut détruire le pays. De Gaulle a détruit l'Empire. Et lui, il veut détruire la nation, ce qu'il en reste. L'Hexagone.
Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est qu'on retrouve dans ce qui se passe, j'y pensais tout à l'heure, quand on parlait des questions de natalité, des questions de l'emploi, des questions où en France, c'est la technique de Staline de couper le saucisson par les deux bouts. Parce que, mais c'est exactement ça. On empêche les naissances par toutes les incitations possibles à la stérilité du mariage, ou à la non-fécondité du mariage.
Ouais.
Et on accélère la fin de vie. D'une part. Et d'autre part, on empêche l'embauche normale en faisant venir une main-d'œuvre qui, naturellement, sur le marché de l'emploi, fait baisser les salaires.
Quand on ne la fait pas venir, elle vient d'elle-même.
Et elle vient d'elle-même. Et on, à l'autre bout, on délocalise, on expatrie les usines. Goffman a fait, dans le dernier numéro du Libre Journal, qui est sorti là, il y a quelques jours, un papier extrêmement intéressant sur le fait que Renault est en train d'ouvrir en Roumanie des usines pour faire travailler les Roumains, ce qui est très gentil. Moi, je serais content que les Roumains travaillent. J'aime beaucoup les Roumains. Mais c'est fait avec du matériel qu'on a enlevé des usines françaises en disant ce matériel est obsolète. On va le remplacer par du matériel nouveau, qui est automatique. Donc, c'est les ouvriers, allez vous faire dorer. On transporte le matériel ensuite. On ne le détruit pas. On le transporte en Roumanie, ce qui fait travailler les Roumains. Autrement dit, c'est une forme de délocalisation. On donne à des Roumains le travail que les Français pourraient faire. Pourquoi ? Tout simplement parce que ça coûte 7 fois moins cher. On peut comprendre les dirigeants de Renault, évidemment. C'est beaucoup plus intéressant de payer des ouvriers 150 euros par mois que 700 ou 1000.
Et en entrant dans notre pays, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe un phénomène inverse qui aussi détruit l'emploi français. C'est que on remplace les Français qui ont des emplois mais qui sont trop chers payés selon les dirigeants par des étrangers que l'on paye moins.
C'est ça.
Ce qui fait qu'il y a un double transfert. Il y a un transfert à l'intérieur du pays et un transfert à l'extérieur par les délocalisations. Mais ils veulent nous tuer, tous ces gens-là. Ils veulent que le pays meure. Qu'est-ce qu'ils veulent ?
Je crois qu'ils veulent ça, mais je ne suis pas certain que tous le veulent parce que je crois qu'il y a une grande part de stupidité là-dedans. Je regardais hier une émission à la télévision qui m'est parue comme un sommet de conneries humaines. Il n'y a pas d'autre mot, les auditeurs m'excuseront. Ça se passait dans une école de la Goutte d'Or. Il y avait une institutrice qui avait convoqué les parents des enfants qui avaient des difficultés dans sa classe. Alors elle expliquait avant, évidemment ils ont des difficultés parce qu'ils ne parlent pas français. Dans une école française, suivre les cours de l'école communale en française sans parler français, on comprend. Elle dit ils ne savent pas faire des phrases, alors ils disent des mots. Bon. Alors, j'avais donc réuni les parents des enfants qui avaient des problèmes. Alors, on voyait des Africains, des Maghrébins, de braves gens, 40 ans, 50 ans, qui étaient là et qui écoutaient la maîtresse. Parce que la maîtresse, pour eux, c'est aussi quelque chose de formidable. Bon. Et qui l'écoutaient avec beaucoup d'attention et leur dit, voilà, alors, vos enfants ont des problèmes, car vos enfants ne parlent pas le français, ils ne lisent pas le français, et ils ont des difficultés à l'école, vous comprenez ? Alors, j'ai préparé une petite note pour vous expliquer ce que c'est. Et elle distribue la note aux parents qui regardent ça. Ils ne savaient même pas dans quel sens ça se tenait. Évidemment, ils ne savent pas lire, bien sûr. Alors, elle avait résumé les dernières découvertes en matière de pédagogie dans quelques lignes vraiment intéressantes sur un bout de papier. Qu'elle donnait ça, qu'elle donnait aux gens. Il fallait voir la tête de ces pauvres gens qui regardaient le papier, mais littéralement en se grattant la tête. Et puis en jetant des coups d'œil sur le côté. Elle nous prend vraiment pour des imbéciles ou elle se fout de nous, quoi. Et puis il y avait un couple de Français, d'aborigènes indigènes autochtones, qui étaient là, et ça surprenait un petit peu. Alors moi je dis, bon, bah, ça doit être des débiles profonds, et leurs enfants ont des difficultés pour des raisons qui, là, sont ni ethniques, ni raciales, ni rien du tout. Ils ont des difficultés parce que, bon... Et pas du tout, elles se tournent vers les parents et elles leur disent... Alors, votre fille, qui s'appelait, je ne sais pas comment, Isabelle, ou Lucie, ou Marguerite, ou plus probablement, d'ailleurs... Kevin ou Samantha. Alors votre fille Samantha a des difficultés parce que vous comprenez, elle est dans un milieu privilégié où on parle bien le français, où on, donc elle sait lire et écrire, elle se débrouille bien, elle parle un bon français. Mais alors elle est en difficulté parce que elle n'est pas adéquate au milieu, vous comprenez? Donc il y avait tout le monde a des difficultés, quoi. Ceux qui sont incapables et ceux qui sont trop capables.
Et pour France Résistance, je voudrais quand même préciser aussi autre chose, c'est que manifestement les Américains ont deux porte-avions en Europe. Le premier c'est l'Angleterre, le second c'est la Turquie. C'est deux bases stratégiques qui sont extrêmement efficaces. Et ce qui est inquiétant, c'est que si la Turquie rentre dans l'Europe, il faut considérer qu'ils sont approximativement 70 millions, plus une trentaine de millions ventilés dans d'autres pays, ce qui constitue une force non négligeable de pression électorale. Et en plus de ça, au niveau de l'Europe, ces gens-là ont le maximum de représentants et ils prendront tout bonnement la tête de l'Europe. Alors il faut quand même que nos auditeurs soient conscients de ça, il est temps de réagir. Et j'attire votre attention sur quelque chose qui m'inquiète. Moi, je me pose toujours la même question. Pourquoi les Français réagissent plus? Et quand un individu est frustré et qu'on l'attaque, il a deux modes de réaction. Le premier, il passe à l'attaque ou il s'exprime violemment. S'il ne dit rien, il devient rancunier et il est dans un état de malaise assez important. Mais dans quelle mesure les médias, même y compris Radio Courtoisie, ne sont-ils pas un alibi aux auditeurs en leur permettant de purger leur frustration, leur émotion, on les démobilise sur le plan de l'action, tout simplement. Non, en disant, on a des représentants, eh bien, on pousse nos tours devant et ils font les choses à notre place. Eh bien, il faudrait que les auditeurs sachent que nous, si nous sommes des locomotives, on ne peut pas tirer un nombre indéfinissable de wagons s'ils ne se mobilisent pas à leur tour. Je crois que l'action sera efficace que dans la mesure où tout le monde participera.
Tu dis ça parce que tu es démocrate.
Oui, j'ai encore ce.
Non, c'est pas de la démocratie.
Je crois au patriotisme du peuple,
qui est totalement différent.
Sur les motivations.
Oui.
Sur les motivations, bien sûr.
Je pense que s'ils ont compris qu'ils vont crever, ils doivent agir.
Comment des gens peuvent-ils se mobiliser dans la situation, tu as dit tout à l'heure, ils sont sous neuroleptiques en permanence. Ils sont édulcorés par une alimentation qui est totalement pourrie.
Bah,
le sucre, les choses comme ça. Bon. Ils sont abrutis par la télé. Moi, j'ai entendu, il y a une semaine, je le racontais tout à l'heure à François Plantet, un type dire dans la même phrase, mais vous pouvez pas dire que c'est pas vrai, je l'ai vu à la télé. Et il continue sa phrase, blablabla. Et puis, d'ailleurs, tout le monde sait qu'à la télé, il raconte que les conneries, tous les journalistes sont des menteurs. Dans la même phrase.
Ça, c'est bon.
Bon, qu'est-ce que vous voulez répondre à ça? Vous regardez les gens, vous dites, mais il faut tout reprendre à zéro. Il faut tout reprendre à zéro. Il faudrait leur injecter d'un cerveau. Pas tout le monde, bien sûr. D'abord, pas tout le monde, mais beaucoup, beaucoup de gens. Et puis, non, pas envie, il y a ce sentiment d'autruche qui fait que oh, foutez-moi la paix avec vos histoires,
ça démontre l'immaturité considérable de notre société. Il n'y a plus de notion de responsabilité, ça commence par les politiques et ça finit par les citoyens. Les autres sont toujours responsables.
Mais alors, la manie du refus de l'autorité.
Mais si nous nous plaignons tous, nous plaignons tous de nos politiques, et si les politiques assurent encore un rôle directif sur la nation française, c'est nous qui sommes responsables, c'est pas les politiques. C'est notre attitude permissive, laxiste, et puis maintenant... ce qui est grave, c'est que tous les lâches actuellement, tous les lâches qui constituent une grande partie de la France, d'ailleurs, défilent sous le drapeau de la tolérance. Alors vous vous rendez compte, on n'est plus lâche, on est tolérant.
Oui, mais il y a d'autres considérations à prendre. Je ne crois pas que le problème soit un problème de lâcheté. C'est un problème de cohérence intérieure, de cohérence intellectuelle. Il est évident que la plupart des gens, la plupart des citoyens, puisque c'est le mot à la mode, sont dans un état de divagation permanente. Je regardais l'autre jour à la télévision, quand il y a eu sur la côte des Pyrénées, là-bas, il y a eu 3 jours de mer agitée. Tiens, à propos, la mer agitée m'a pas envoyé le fax qu'elle devait m'envoyer. Bon, je lui signale.
On l'attend.
Il y a eu une dizaine de noyés. Donc, les maîtres nageurs, sauveteurs, CRS et pompiers se rendaient sur les plages pour dire aux gens, il y avait le drapeau rouge, on voyait la mer qui était grosse, et les gens se baignaient. Alors les gars disaient, mais les maîtres nageurs disaient, mais ne vous baignez pas, regardez, la mer est grosse, c'est dangereux, on a mis le drapeau rouge, à quoi ça sert? Et il y avait une femme qui était là, qui avait l'air d'ailleurs d'une brave ménagère, pas plus bête que la moyenne, assez bien de sa personne, qui disait, oh écoutez, on sait ce qu'on a à faire, on est bien assez grand, et puis après tout on est en vacances. Donc, parmi les privilèges des vacanciers, il y a celui de se noyer, bien entendu. Voilà. On est tout à fait d'accord avec ça. Et naturellement, de faire noyer ses enfants. Et accessoirement, de faire noyer les malheureux qui vont se porter à son secours. Donc, à partir du moment où on est dans cette situation, plus rien ne vaut rien. C'est-à-dire qu'on peut dire n'importe quoi. Il n'y a plus aucune référence. C'est même pas un problème de lâcheté. C'est un problème de dysfonctionnement cérébral. François Plantet.
Je pense que la société s'est organisée comme un être humain. C'est-à-dire, vous pouvez pas demander aux cellules musculaires de remplacer les neurones. Dans la société, c'est le parfait précède le parfait comme l'acte, comme l'essence précède l'acte, comme dit saint Thomas. C'est au chef d'envoyer de l'énergie vers le bas. Donc, la situation, elle est humainement impossible. Inutile d'épuiser les gens avec des efforts, c'est pas la peine. On n'arrivera pas. Il n'y a plus aucune conscience. La vie a abandonné ces gens. C'est des amputés du cortex. Il y a juste les circuits sous-corticaux qui fonctionnent et encore mal. Hein. Donc il est irréel. C'est pas la peine de s'épuiser. Il faut faire ce que dit Marcel. Enfin, on en parlera tout à l'heure.
Ouais. Moi, je ne suis pas aussi pessimiste que le docteur.
Mais on va tous s'écrouler.
C'est pas du pessimisme. Non, mais votre constat, je m'excuse, on a fait quand même la preuve qu'on pouvait réagir.
Pierre.
Parce que si on a réagi au moment...
Bien employé le passé.
Au moment
on a fait... Alors, d'abord,
c'est pas très vieux.
Non, mais c'est pas une généralisation.
Il y a des gens qui se sont pris en main, qui ont risqué leur vie quand même pour sauver trois départements
c'est
français.
Entendu.
Et ici, il y en a 86 à sauver.
À propos de l'Algérie, j'ai été blessé en Algérie, mais pendant qu'on allait au tract, au machin, au truc, il y avait 80% de la population qui foutait rien. Hein. Hein, il faut être clair sur les pieds noirs. Hein, parce que s'ils avaient fait quelque chose, on y serait toujours. Hein. Il y en avait l'immense majorité qui restait chez eux. Hein.
Il y a cette incohérence. Moi, je reviens toujours à ça. Encore un exemple. On parlait de Fabius tout à l'heure. 60% des socialistes se prononcent en faveur du projet se disent d'accord avec Fabius sur le fait qu'il faut subordonner le vote oui au référendum à des positions claires de la France sur la question, sur les questions sociales et sur, notamment sur la question des délocalisations. 60%. Bon, on leur dit, est-ce que vous êtes d'accord avec Fabius? 60% oui. Qu'est-ce que vous allez voter au référendum? 50% oui. Donc il y a 10% des socialistes qui pensent que Fabius a raison d'appeler à voter non, mais qui vont voter oui.
Ouais.
Alors, attendez, c'est des malades mentaux. Bon, c'est des socialistes. C'est pas très étonnant.
Ouais. Ils ont une excuse.
C'est la discipline d'appareil, tout simplement.
Voilà. Alors, revenons à France Résistance. Comment ça va fonctionner pratiquement?
Alors, pratiquement, ça va fonctionner de la manière suivante. C'est une sorte de comité de coordination générale. Sans chef, sans président, sans rien du tout. Hein. C'est de la coordination. Chaque association pourra, sous son nom, organiser des réunions au nom de France Résistance. J'ai vu que Chirac et ses sbires devaient faire 1000 réunions pour le oui. Si toutes les associations qui se battent actuellement en France pour défendre tel ou tel autre morceau de notre culture, de notre civilisation, se joint à ce mouvement, nous on va en faire 10 000. Il suffit qu'à chaque fois, les réunions soient organisées, France Résistance, et que, au cours du débat qui sera instauré, on demande de voter non référendum, en expliquant pourquoi, et de demander de s'opposer à l'entrée de la Turquie dans l'Europe. On aura également des tracts que l'on va faire distribuer Et plus il y aura de gens qui distribueront les tracts, plus on aura de chances de toucher une grande masse de public. Donc des réunions, des tracts. Pour que personne n'ait peur, on s'est engagé à ce que il n'y ait que ces objectifs. Il n'y aura aucune présentation à des élections ou quoi que ce soit. Ça, on ne veut pas d'électoralisme chez nous. Simplement sauver notre pays. Sauver l'État-nation et essayer de rendre un peu le moral aux Français. Il faut qu'ils se battent. Parce que s'ils ne se battent pas, demain, ce seront des esclaves. Parce que la politique des immigrés qui est de l'islam, quand elle est majoritaire quelque part, il n'y a plus de discussion. Tu ne peux plus mettre une croix, hein, et tu ne peux plus prier, tu ne peux plus rien faire.
Ah, on voit en Arabie Saoudite.
Il n'y a qu'à voir l'Arabie. Et les églises, on les transforme en mosquées. Donc c'est le but de France Résistance, c'est ça.
Comment on peut pratiquement participer à cette opération quel est ton rôle, Pierre?
Moi, j'ai lancé parce que je suis un animateur.
Et René Feijan
Avec moi, au nom de Démocratie Directe, il a dit « Ton idée me plaît, je marche avec vous ». Donc, on a fait un comité d'organisation provisoire que l'on va étendre au fur et à mesure où on aura des gens qui viendront s'ajouter. J'ai eu bon part, par exemple, l'Esprit Public va se joindre à notre campagne.
Donc c'est pas un parti politique, politicienne, pas une organisation électorale,
non.
C'est un front en quelque sorte, un front contre
le référendum.
C'est uniquement ça.
Et l'entrée de la Turquie, un deuxième point. Hein.
Et il y a une adresse,
pour le moment, sur les lettres que j'ai envoyées à tous les amis, celles que tu as reçues, il y a mon adresse personnelle, mais on a un site internet, mais moi je ne l'ai pas en tête. Tu l'as pas non plus.
Oui, c'est www.ddfrance.com.
DD France.
Oui, www.ddfrance, tout en minuscule évidemment, .com.
Il faut gratter DD, quoi.
Voilà, on va demander à DD.
DD France. On a passé par trois caps, finalement. Il y avait la France du laisser-faire, la France résistance, et puis demain, la France offensive.
Alors, ddfrance.com. Com. D'accord.
Et à mon adresse, pour le reste, 77 rue Pigalle.
77 rue Pigalle, alors ça c'est pour les correspondances.
Ceux qui
pour l'instant, puis après il y aura un téléphone qu'on donnera à tous.
Ça, mais donc, pour le moment,
c'est quel département le
75-009, Paris.
Pour Victoria.
75-009,
c'est pas seulement 75, il faut ajouter 09.
009,
département de Croulande.
Monsieur Pierre Descaves, 77 rue Pigalle, 75-009, Paris.
Croulande.
Ça va, là.
C'est le pays des frères. C'est ça que ça veut dire. Hein. Il n'y a pas de honte. Hein.
C'est pour ça que je le dis.
Oui. Et donc, il n'y a pas d'adhésion.
Non, pas de cotisation.
Formidable. Rien. Enfin, des gens qui ne demandent pas d'argent.
Oh là là.
Mais pourquoi faire?
Et qui ne disent pas voter pour moi.
On va leur demander de bosser. Alors, si en plus on leur demandait de l'argent, ce ne serait pas bien.
Bon, alors, régulièrement dans cette émission, on donnera des nouvelles de France Résistance, qui me paraît une initiative extrêmement intéressante. Et je signale aux lecteurs du Libre Journal que dans le prochain numéro, il y aura la présentation du projet. C'est le texte que Pierre Descaves m'a envoyé, qu'on publiera, et la présentation et les intentions et le projet éditorial, comme on pourrait
dire. C'est une charte.
La charte
de France Résistance.
Sont très clairement expliqués.
Une raison de plus de s'abonner au Libre Journal, 4 place France Lys, Paris 10e.
Il est très bien, garçon, que je n'ai même pas pensé à le dire.
C'est Goffman.
René Feijan, vous reviendrez nous voir, ou tu reviendras pour faire semblant de se bouger, parce qu'on va se prendre des pieds. Donc, tu reviendras nous voir, parce que je dois dire que René, en dehors de toutes ses activités diverses et variées, est allez, je le dis, tant pis, il va crier, mais ça fait rien. C'est Léonard de Vinci. C'est extraordinaire. C'est un homme qui, il est en train de travailler un projet qui n'est pas, comme dire, Dieu n'est pas mort, il travaille actuellement un nouveau projet. Non, alors René Feijan, il a inventé un profil d'aile volante,
parapente.
Pour parapente, qui est extraordinaire, qui stupéfie les ingénieurs aérodynamiciens et aéronautiques. Et il m'a assuré que, à brève échéance, enfin à moyen terme en tout cas, on pourrait développer un système d'aile qui permettrait à un homme de décoller du sol par la seule force de ses jambes. C'est extraordinaire.
C'est l'actualisation du mythe d'Icare. Donc voilà. C'est vraiment le rêve de l'humanité. Alors, qui est en passe de se réaliser. Maintenant, je m'empresse de te dire, Serge, que dans un premier temps, on va faire un vol battu sur l'entretien du vol. Par la suite, nous décollerons de hauteur de plus en plus basse pour décoller du sol. Mais je pense que tout est possible dès lors qu'on s'attache à un problème. Ce qui est impossible, l'utopie finalement, c'est quelque chose qui ne se réalise pas.
L'utopie, tout est à la base de l'utopie. Les choses sont impossibles parce qu'on n'a pas essayé de les faire.
Exactement.
Alors ça, on fera quelque chose là-dessus, on fera venir des techniciens, parce que c'est vraiment passionnant. C'est la première fois qu'on envisage vraiment le vol humain comme une possibilité, mais une possibilité réelle, pas avec un moteur, pas l'aérostation, rien. Un vol dirigé, volontaire, avec décollage, atterrissage, autant que faire se peut, en état de...
Tu expérimenteras toi-même, d'ailleurs.
Oui, ça, on verra ça plus tard.
Avant de partir, s'il y a des questions...
Puis... Oui, alors, Victor, il y a des questions
pas de France Résistance.
Non, pour le moment, il n'y a pas encore de questions.
Non, c'est pas inquiétant.
Il faut laisser...
Elles vont arriver maintenant.
Voilà.
Ne vous en allez pas, ça va arriver.
Restez pour l'instant, donc on va prendre
des
questions. Et puis,
donc vous risquez d'avoir des questions maintenant.
Voilà. Alors, d'autres, il y a beaucoup de messages.
Il y a beaucoup de messages. Il y a d'abord le plaisir de vous retrouver. Plaisir.
C'est bien aimable.
Plaisir.
C'est
alors, je vous les lis quand même.
Oui,
quelle merveille de vous retrouver. Ah. Bravo.
Voilà.
Monsieur Serge de Becquetch, on est content de vous entendre sous forme d'un morceau de viande vivante, comme vous dites. Monsieur Amiche a fait un bon intérim quand même. Meilleur sentiment et que Dieu nous garde. Pourquoi, monsieur de Becquetch, pourquoi la gnose sous les pommiers? À propos de gnose, comprends à présent...
Tombé sur la tête, qu'est-ce qui a parlé de ça?
Mais attendez...
Il faut varier. Alors, c'était pour dire à propos de gnose, fallait bien l'amener.
Ah oui, d'accord.
C'était sous les pommiers. À propos de gnose, je comprends à présent que vous ayez fait l'éloge de la sauge dans l'émission avec le docteur Plantet, car j'ai appris au Jardin des Plantes que la sauge a des propriétés pharmacognosiques.
Oh,
vous avez fait rire le docteur Plantet, bravo.
Excellent. C'est pas trop difficile de faire rire le docteur Plantet, qui est un bon public.
Surtout
le prof, c'est qu'il rit à mes plaisanteries. Mais
continuons.
Voilà.
Avec le retour du snipper, ou du sniper, comme vous voudrez, du mercredi soir, les imposteurs et les idées toutes faites vont se faire dégommer à nouveau, pour notre plaisir. Merci.
Ah, c'est joli, le sniper du mercredi soir. Ah,
J'ai lu dans la presse que Serge de Becquetch avait participé à l'université d'Orange après avoir trahi Le Pen en allant vers Maigret. Je suis scandalisée. C'est un auditeur. Donc,
c'est Joseph Staline, non?
Joseph
Vissarionovitch,
c'est un survol.
Écoutez, bon, je vais répondre à ça, mais en deux mots, je trahi Le Pen ni personne d'ailleurs. Moi, j'ai pour principe d'être un homme libre et je reçois qui je veux, quand je veux, comme je veux. Voilà. Première chose. Tiens, je reçois même l'abbé Laguérie. Ça veut dire jusqu'où je suis capable d'aller. Il fait son entrée dans les studios. Entrez, monsieur l'abbé. Vous allez trouver une place, peut-être. Le docteur Plantet va-t-il...
Oui,
non, ben, attendez. Asseyez-vous par là. Voilà, je vous laisse vous installer. Et puis, on fera un jeu de chaise musicale après. Voilà. Donc, je disais, je reçois qui je veux, quand je veux, comme je veux. Ça ne veut pas dire que j'adhère ou je n'adhère pas. J'ai dit ce que j'avais à dire sur au moment de la rupture... entre Le Pen et Maigret, je peux le répéter, mais ça ne fera pas gagner grand chose, donc c'est pas la peine. Tout ça est passé.
C'est pas,
je suis l'ami de Bernard Anthony et j'ai l'intention de le rester longtemps. Je suis l'ami de Bompard et Pierre Descaves aussi. Et je suis l'ami de Bompard et j'ai l'intention de le rester longtemps. Donc je choisis mes amis non pas en fonction de leurs attaches politiques. J'ai même des amis pas de gauche, non, je peux pas dire ça, pas vraiment. Enfin, un. J'ai même des amis anarchistes, oui. Donc, qu'on me foute la paix avec ça, c'est tout. Je suis au service de personne, point à la limite.
Voilà.
Et puis, si ce monsieur n'est pas content, il a qu'à écouter notre radio. Il a qu'à écouter le...
Mais non, il a du plaisir à vous entendre.
Mais non, puisqu'il dit qu'il est scandalisé, après avoir trahi Le Pen.
Ça lui fait marcher l'adrénaline.
Très bien, ça lui fait...
Cher Serge de Becketch, extraordinaire. Ouf, enfin, j'entends dire ce que je pense, tout haut, mais dans le vide. Hardy, enfonçons le clou. Peut-être qu'à force, un jour, les Français comprendront, mais quand ?
Trop tard, comme d'habitude.
Comme semeur de... Monsieur de Becketch, hein, comme semeur de troubles, vous vous posez là, vous aussi. Vous allez chercher les trublions et vous les laissez parler. Continuons.
Faire des caves. C'est pour vous, ça.
Oui, là, j'en prends pour mon grade. Ah, ouais. Mais je sais pas pourquoi. Je sais pas qui j'ai pu troubler à part l'ennemi. Et je sais pas qui j'ai pu troubler à part les crapules de l'UMP ou de l'UDF.
Dans les troublions, ils n'ont pas encore tout entendu ce soir.
Oui.
Bonsoir, mon
ça
père.
Bonsoir.
Quelle magnifique émission et quelle magnifique rentrée pour Serge de Becketch. Mille merci à lui. Qui organise... Alors ça, c'est au début de l'émission. Qui organisera concrètement la résistance de manière à donner à chacun de nous les moyens de lutter enfin efficacement pour sauver notre nation et notre civilisation?
Voilà, je
donc
crois
vous avez
que
eu la réponse après.
Cet auditeur ou trice a bien compris le non-dit de cette première partie d'émission.
Alors après, il y a un peu de tout. Quoi. Monsieur de Becketch, vous avez raison de vous désoler devant les déchirements internes du front, mais c'est sans importance puisque la cause nationale est définitivement perdue. Les patriotes doivent, dans chaque région, s'organiser pour défendre leur identité et leur souveraineté régionale. Ça ne mange pas de pain. Il faudrait avoir...
Oui, il faut vous mettre dans le micro si vous parlez. Enfin, il faut parler devant le micro. Franck a raison.
Il pensait tout. Il faudrait... Alors, une auditrice nous dit qu'il faudrait tout de même avoir une pensée pour tous les chrétiens d'Irak qui souffrent particulièrement.
Oui, si, avec en Irak. Mais les chrétiens, ils sont persécutés partout. On n'en parle jamais. Ils sont persécutés en Chine, ils sont persécutés au Vietnam, ils sont persécutés en Corée, j'en parle pas. Ils sont persécutés au Soudan, ils sont persécutés au Nigeria, ils sont persécutés partout.
À la porte de Clignancourt.
En France.
En France aussi. Donc, et même les chrétiens des chrétiens, ils arrivent à s'entre-persécuter. Alors, c'est vous dire, on en arrive.
Lu dans le Figaro, nous dit cet auditeur, que des chrétiens irakiens, je suis pour rester dans le sujet, menacés, veulent partir. Mais la France leur refuse des visas. Ils seraient pourtant moins dangereux chez nous que beaucoup d'autres. Une auditrice...
Je ne sais pas du tout de quoi cette personne veut parler. Alors.
Une auditrice. Sur LCI, ce midi, on a annoncé qu'une propriétaire d'un terrain ayant refusé de le vendre à un maghrébin. Les raisons de son refus restent très floues, mais elle a été condamnée à 4 mois de prison avec sursis et 12 000 euros d'amende.
Moi, je trouve que c'est pas suffisant, on aurait dû la battre comme une chienne.
Le journaliste l'a
fusillée purement et simplement.
Ouais.
Conclusion, alors, la question est posée.
En revanche, il faut savoir comment ça s'est passé. Oui, la question est posée.
A-t-on encore le droit de choisir son acheteur?
Non, on n'a pas le droit, la loi française
l'interdit. C'est la loi l'interdit.
Mais d'abord...
Sans salarié non plus.
J'ajouterais que... ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est pas tellement le fait en soi, parce que le fait en soi, il est complètement ridicule. Cette dame-là, elle a vraiment donné des verges pour se faire battre. Il aurait suffi qu'elle dise « Bon non, finalement, je renonce à vendre, puis c'est tout terminé. Elle n'a pas besoin de donner d'explications. » Mais ce qui est tout à fait intéressant, c'est que c'est l'agence immobilière, le vendeur, enfin l'agence immobilière, qui est allée, qui a dénoncé la cliente. Alors, il faut saluer le courage citoyen de ce citoyen agent immobilier de
un collabo puis voilà
hein, citoyen collabo, non c'est un citoyen il a eu le courage mais la délation je vous signale que la délation c'est positif puisqu'il y a un délit qui s'appelle non dénonciation de malfaiteur ce qui veut dire que si c'est un délit de ne pas dénoncer un malfaiteur c'est citoyen de le dénoncer hein, ça s'appelle la loi des suspects sera considéré comme suspect quiconque n'ayant jamais dit du mal des Arabes n'en aura pas dit de bien.
Et voilà.
Hein, voilà. Et donc, cette
même chose pour d'autres.
Elle a été. Alors, je signale qu'on trouve assez facilement Le Monde ayant donné le nom, le prénom, l'adresse de l'agence immobilière en question. On trouve dans l'annuaire tous les moyens de faire savoir à ce citoyen respectable et citoyen, qui a fait preuve de citoyenneté citoyenne, notre respect, notre admiration, et de lui dire bravo monsieur, et quand j'aurai quelque chose à vendre, je ne manquerai pas de faire appel à vos services. Voilà.
Oui.
Oui, à vous, mon petit.
Pendant les 14 années de Mitterrand, combien d'étrangers ont-ils été nationalisés?
Vous ne savez rien. Il n'y a pas marqué quid, hein.
Lisez
le quid, ça doit être indiqué.
Connaissez-vous les accords entre Bouteflika et la France?
Je ne sais pas s'il y a des accords entre Bouteflika et la France. Je crois plutôt qu'il y a un accord entre Bouteflika et Chirac.
Voilà,
parce que à ce niveau-là, ça ressemble. C'est à la limite de l'obscène.
Sarkozy est pour la Constitution européenne alors qu'il veut être président de la République. Mais cette Constitution européenne, supprimant ou presque la France en tant que pays majeur, nous n'avons plus besoin d'un président de la République.
Ça, c'est plutôt la bonne nouvelle. Ça.
Il en est de même pour le Parlement, qui depuis plusieurs années ne sert plus à rien. Et si ce n'est qu'à être des béni-oui-oui de Bruxelles. Donc, supprimons le Parlement pléthorique, onéreux et devenu inutile.
Eh bien, je suis tout à fait d'accord.
Ça, absolument. De la
ça permettra de faire tomber quelques immunités parlementaires et quelques indemnités aussi, d'ailleurs. vous avez vu que M. Pasqua veut absolument être sénateur. On se demande bien pourquoi.
Comme Chirac.
Parce que tant qu'à être logé gratuit, bon, c'est vrai qu'il pourrait être logé gratuit pour le Sénat, mais ça va être difficile. Tandis qu'à la santé, il n'y a aucun problème.
Oui, mais il n'y a pas la santé, il n'y a sûrement pas les velours,
non,
les beaux velours du
les
Sénat.
Ors.
Les ors et les velours, voilà. Très heureuse de vous retrouver en direct. Grand merci d'avoir invité l'abbé Laguérie. Ça, c'est pour tout à l'heure. L'État a mis un numerus clausus pour les médecins restants. Les médecins restants vont vers la filière qui rapporte le plus. C'est pourquoi il n'y a plus de chirurgie. Il existe un livre, Les Martyrocrates de Goldnadel.
Eh ben voilà, qu'est-ce que je viens de parler de.
Alors c'est chez Plon, elle précise.
C'est comme ça qu'on dit maintenant. Il faut parler moderne parce que.
Je vous rappelle que c'est Monsieur Georges Pompidou qui n'était encore que ministre de Charles le Dérisoire, je ne sais pas pourquoi c'est écrit comme ça, qui avait dit il faut casser les prétentions salariales des Français en important massivement une main-d'œuvre étrangère extra-européenne.
Ben, c'est normal.
Je ne crois pas que ce soit Pompidou.
Si, c'est lui.
Juppé
l'a répété. Mais Pompidou, qui était le domestique de Rothschild, l'a dit. C'est lui qui a commencé.
Avortement égale immigration.
C'est ce que disait Pierre, exactement.
Appeler à voter non, c'est bien. Mais on constate que les Français s'endorment dans leur confort.
On va les réveiller.
Ne vaut-il pas mieux? Voilà une solution. Ne vaut-il pas mieux appeler à voter oui, afin que le chaos arrive plus vite et qu'enfin nos contemporains se réveillent?
C'est à chaque fois c'est le même truc.
Le truc du pire.
À chaque fois c'est le même débat. Oui, bien sûr, on peut se poser la question.
Pour ne pas être fusillé, il faut se suicider.
Voilà,
ça me paraît clair.
C'est gribouille.
Mais pouvez-vous redonner le site? Vous avez donné un site internet tout à l'heure.
www.ddfrance.com.
Voilà.
Dédé, il n'y a qu'à gratter Dédé. C'est facile à retenir, c'est pour ça que je le dis.
Nos élites ont voulu l'Europe à 25. Et hier, dans le Figaro, toujours, on lit beaucoup le Figaro, hein, on nous annonce que l'Europe va prendre des mesures contre les pays de l'Est par rapport à la rage. Ah bon? Je croyais que le chien importé illégalement venait du Maroc.
Mais ça va être difficile d'exclure le Maroc de l'Europe, quand même. Il faudrait d'abord le faire rentrer. Voilà, c'est tout. Bastagouzi. Bon, ben messieurs, alors, comme les questions, de toute façon, on refera des émissions régulièrement, et il y aura certainement des questions à ce moment-là. Merci de votre présence, à bientôt, et bon courage dans ce que vous avez entrepris, qui me paraît salutaire.
À tous les auditeurs.
Au revoir, René. Monsieur l'abbé Laguérie, bonsoir.
Bonsoir, hein, les amis.
Alors, je vais demander à François Plantet de prendre la place là, parce qu'on est un petit jeu de chaises musicales fort sympathique.
Chaises tournantes.
Alors, il y a au moins une chose que que mon émission aura obtenu, c'est d'avoir dans le même studio le Pierre Aragouache et l'abbé Laguérie. Mais c'est pas du tout pour les mêmes raisons.
C'est pas la première fois, je crois.
Non.
Et on est toujours content de se rencontrer.
On va se terminer en bagarre, j'espère.
Sûrement pas.
Bien, monsieur l'abbé Laguérie, je suis content de vous recevoir. On a Daniel Amich, en mon absence, a donné la parole dans cette émission à toutes les personnes concernées par cette affaire, par ce qu'il faut appeler le drame de Saint-Nicolas, enfin de Saint-Nicolas, de la fraternité, puisque l'abbé Cellier est venu, a expliqué sa position, je crois que l'abbé Laurence est venu aussi, et puis l'abbé Ollanier est venu. Et donc, c'est tout à fait normal que vous veniez, vous, donner votre position. C'est d'autant plus normal que je ne cacherai pas que je vous considère comme un ami. Et que j'étais très, très peiné par cette affaire. J'étais scandalisé au sens premier du terme, au sens néo-testamentaire du terme, par la façon dont vous avez été traité, parce que je trouve que il n'y a pas beaucoup de prêtres de la fraternité qui méritent d'être traités comme ça, et en tout cas, s'il y en a un qui ne le mérite pas, c'est bien vous. Et voilà, alors je voudrais que vous nous disiez ce que vous souhaitez dire, ce que vous avez envie de faire savoir à vos amis, et puis aussi à ceux qui, je ne dirais pas sont vos ennemis, mais enfin sont, dans les circonstances actuelles, vos adversaires.
Écoutez, pour planter le décor, je donnerai simplement deux faits. Le 25 juillet de cette année, je reçois une lettre de Mgr Felet pour mon jubilé sacerdotal des 25 ans. Il me félicite de ses 25 ans de fidélité, de combat dans une période difficile. Il se joint à ma joie, à ma prière, à mon action de grâce et me donne sa bénédiction. Donc l'été est vraiment commencé au beau fixe. Et le 3 septembre, deux mois plus tard, et on peut même exclure le mois de juillet qui ne comptait pas, puisque tout se passait bien encore, je reçois une lettre du même Mgr Felet me disant « Vous avez 24 heures pour quitter Bordeaux. » J'insiste, Bordeaux, hein, si j'avais été pris dans un restaurant ou dans un parc de Bordeaux à midi le samedi 4, eh bien vous êtes, considérez-vous comme n'appartenant plus à la fraternité. Et d'ailleurs, la toute nouvelle, la dernière pour nos auditeurs, c'est que cette lettre confirmant mon renvoi de la fraternité est arrivé hier, donc 10 septembre. Alors, il s'est quand même passé quelque chose. Parce que d'un heureux jubilaire, en un mois, on a fait un proscrit, un paria qu'on ne veut même plus voir traîner dans les rues de Bordeaux. Que s'est-il passé? Au début de l'été, je signale une difficulté grave dans notre séminaire d'Écône. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, le cœur de la fraternité, c'est Écône. C'est là qu'on ordonne nos prêtres, c'est là qu'on est fiers d'aller et de voir que les choses avancent, grandissent, si on a un temps, soit peu, l'âme missionnaire. J'avais signalé ces difficultés à Monseigneur bien avant, puisque je tiens une lettre du 24 mai que je lui écrivais en 2003. Je l'ai rencontré une heure pour lui reparler de la chose. Je sais que de nombreux confrères pensent la même chose. Il y a encore des vocations, il n'y a presque plus d'ordination. On peut tripoter les chiffres comme on veut, les faits sont là. Et comme disait Lénine, ils sont têtus. Alors ce qui est incroyable dans cet été, c'est que on commence par signaler un problème dans le séminaire d'Écône, et qu'à la fin de l'été, on vous annonce qu'il n'y a qu'un problème, c'est Bordeaux et même l'abbé Laguérie. Alors c'est quand même un renversement de situation qui me paraît pour le moins machiavélique. Il n'y avait pas de problème à Bordeaux puisque ça va très bien. On a ouvert deux églises dans ces deux dernières années. Elles se remplissent, les fidèles ont augmenté et je vois pas très bien quel était le problème de Bordeaux. Il y avait un problème au séminaire. Un problème au séminaire qui consistait dans la sévérité excessive avec laquelle étaient traités les séminaristes au point de les décourager les uns après les autres. Et un institut comme le nôtre qui n'ordonne plus et indépendamment des chiffres où l'esprit n'est plus celui de Mgr Lefebvre, c'est-à-dire cet esprit de joie, d'enthousiasme, de conquête, missionnaire dans le rayonnement de la charité de notre Seigneur Jésus-Christ, j'allais dire on voit plus ce que ça donne et effectivement ça ne donne plus rien puisque ça n'ordonne plus. Sur les 16 entrées en 1980 99, eh bien, il reste plus qu'un diacre et fasse le ciel qu'il n'ait pas d'ennui à la rentrée prochaine et qu'il aille jusqu'au sacerdoce. Voilà le problème campé. Alors, de là, le remède apporté.
Si je peux vous interrompre
oui,
une seconde sur ce
point. N'hésitez pas.
Parce que la lettre qui vient d'être publiée récemment dit que les chiffres que vous présentez sur cette question
tout à fait, du séminaire
qui n'ordonne plus sont exagérés. Alors on dit, c'est pas le monsieur avait donné des.
Alors
chiffres.
Moi j'ai donné le chiffre de 62 renvois en 7 ans. On m'explique qu'il n'est que de 49. Voilà pour être précis. On joint là-dessus tous ceux qui sont rentrés pour devenir prêtres et qui ont choisi, parce que bien souvent on les a fait choisir, de devenir religieux. Voilà la différence de chiffres. N'empêche qu'au bout du compte, ça ne fera pas de prêtres. C'est tout. Et je parle des ordinations sacerdotales. C'est quand même cela qui fait vivre l'Église. On nous parle également de proportion. On nous dit la proportion entre ceux qui rentrent et ceux qui sortent, elle est à peu près constante depuis toujours, et elle tourne autour de 50%. Je suis prêt d'admettre ces chiffres. Pas dans les dernières années où elle est catastrophique, parce que pour moi, 1 sur 16, ça n'a jamais fait 50%. Fermons la parenthèse. Mais il faut voir quand même la différence de chiffres. Quand on parle de 50% dans les années de Mgr Lefebvre, Mgr Lefebvre disait, et allait répétant, je prends tout ce qui se présente et c'est la Sainte Vierge qui fera le tri. Vous voyez un peu la différence de mentalité déjà au départ. Mais songez que quand Mgr Lefebvre ouvre son séminaire dans les années 70-75, les positions ne sont pas campées. Il y a un tiers de séminaristes qui va encore à n'importe quelle messe pendant les vacances. Il n'y a pas eu la déclaration de 74. Il y a là-dedans des gens qui n'ont rien à y faire parce qu'ils sont collés à Mgr Lefebvre pour des raisons de soutane latin et d'encens. Bref, c'est normal que dans un séminaire comme ça, il y ait 50% de déchets. Et je dis même qu'il y aurait dû en avoir encore plus. Mais quand vous prenez maintenant l'origine de nos séminaristes, et j'en viens au fond du débat, vous allez voir. Ils sont de nos meilleures familles, ils ont reçu une éducation hyper chrétienne, ils ont passé 7-8 ans dans nos meilleures écoles, ils ont leur bac brillamment, qu'on ne nous dise pas qu'il y a que des paltoqués là-dedans, c'est faux. Il y a des majors de Saint-Cyr, il y a des polytechniciens, et j'en passe. Hein? Et même des militaires. Il y a un capitaine qui s'est fait virer, il ne devait pas être assez dur. Bon, enfin bref. Alors, quand on peut pas comparer ces proportions de 70 et de 80 à celles de maintenant, ou alors c'est vraiment trafiquer les chiffres comme font les boîtes de médias à l'heure actuelle. Hein. J'en viens au fond du problème. Monseigneur Follet, lorsqu'on lui signalait le problème au début de l'été, disait, écoutez, et je l'ai entendu presque partout, Monseigneur Williamson m'a dit la même chose, c'est la qualité des jeunes gens qu'on nous fournit, qui n'est plus suffisante. Ils sont inconstants, ils ont été élevés dans cette situation, dans cette civilisation gadget et autres. Moi, je dis qu'un éducateur qui prétend que c'est la matière qu'on lui fournit qui le rend incapable de fournir un bon produit, c'est lui qui devrait se remettre en cause. C'est lui qui n'est pas l'auteur. C'est lui le nul. Parce qu'on prend les gens comme ils sont. Et on en fait ce qu'ils doivent être. Mais on ne peut pas se plaindre sur les malheurs des temps. Et j'ajoute que ça, c'est la raison principale, parce que c'est la raison constamment invoquée pour dire « mais il n'y a pas de crise au séminaire ». C'est donc cette immaturité des jeunes qui est absolument fausse. Vous avez cité des cas de séminaristes prestigieux, absolument prestigieux, avant même d'entrer au séminaire. Hein. L'argument, donc, c'est de mettre tout sur le compte de la société. Alors moi, je pose une question aux supérieurs de la fraternité, je leur demande, est-ce que vous pensez, oui ou non, qu'il est encore possible d'ordonner ? Mais dans ce cas-là, si c'est pas possible, fermez le séminaire, et puis ne nous demandez pas sans arrêt de vous envoyer des vocations, si vous pensez qu'une vocation ne peut plus éclore parce que le monde est mauvais, parce que le monde est méchant, tandis que vous ne faites pas votre travail. Je trouve qu'il y a là, une démission. Alors, d'où vient cette démission ? Cette démission vient d'un pessimisme noir. La nature humaine est corrompue, on a l'impression qu'on a affaire à une théologie calviniste, et il n'y a pas de rattrapage, il n'y a pas de miséricorde, il n'y a pas d'amélioration. De mon temps au séminaire, on avait aussi des états d'âme. On avait aussi des découragements, on avait aussi des périodes difficiles. Seulement les pères du séminaire, qui étaient des vieux carabiniers comme Bariel, Le Boulche et Don Guillou, et ils nous encourageaient. Je vous racontais, c'est pour faire rire les auditeurs. Un jour, un séminariste du temps du père Bariel se décourageait en voyant arriver le sacerdoce, les échéances, le sous-diaconat et tout ça, et il avait de plus en plus peur. Bon, c'est des choses qui arrivent. Aujourd'hui, on lui aurait dit, bon, alors là, c'est un signe, mon petit. C'est clair, réfléchis. Tu vas pas, déjà en ayant peur à l'avance, qu'est-ce qui va t'arriver après ? Donc, c'était quelqu'un qui était fichu du temps d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'a fait le père Bariel ? Il dit, tu vas faire ce que je te dis, mon petit. Tu vas aller hurler dans les vignes à côté, pendant un quart d'heure d'affilée sans t'arrêter, j'ai peur, donc je suis un peureux, je suis un trouillard, un pusillanime, un lâche, etc. Mais un quart d'heure, tu vas tenir. Alors il a dit, viens mon père, je file dans les vignes. Et alors, je pense qu'il a été entendu, il hurlait comme un âne dans les vignes, je suis un peureux, je suis un lâche, un pusillanime, la preuve, j'ai peur, etc. Et puis le père Réal dit, reviens me voir. Alors il revient voir le père, il dit, t'as fait ce que je t'ai dit? Il dit, oui, c'est vrai, on t'entendait jusque-là. Et il dit, ben, tu vois, t'as plus peur? Ben, il dit, non, j'ai plus peur.
C'est formidable.
Vous comprenez? Et des cas comme ça, tous mes confrères qui m'entendent, qui d'ailleurs, soit dit en passant, la plupart des confrères de la fraternité en France pensent que j'ai raison sur mon analyse du séminaire. Et pas seulement au niveau des chiffres, mais au niveau de l'esprit. Une maison de formation qui devient triste, qui devient... moi, je me souviens de mon séminaire des années 70, 75, 76, 18, 19, jusqu'à mon ordination. Enfin, il y avait ce qu'on appelle en bon français une frite, mais du tonnerre. Et les renvois venaient d'où? Ben, il n'y en avait pas de renvois. Il n'y avait pas de renvois, pratiquement. C'était les prises de position extérieures au séminaire qui faisaient que... Ben, les séminaristes n'avaient pas pensé à ça, je pense à la déclaration de 74. Ben, c'était quand même un coup de tonnerre dans un ciel déjà bien gris, mais enfin un coup de tonnerre quand même très fort. Ça a découragé une vingtaine de séminaristes.
Vous pouvez rappeler pour les auditeurs de
quoi c'est la déclaration de Mgr Lefebvre, où il campe les positions. C'est après une visite canonique de deux prélats romains qui ne croyaient pas à la résurrection et qui nient tout en bloc, etc. Monseigneur, son sang, vous connaissez Mgr Lefebvre, vous l'avez connu. Son sang n'a fait qu'un tour, il a écrit très vite cette splendide déclaration de 74. Nous adhérons de tout cœur à la Rome éternelle, porteuse de sagesse et de vérité, mais nous refusons cette Rome moderniste, etc., qui produit les fruits qu'on voit. Bon, ça, c'était un coup de tonnerre d'attaquer ainsi les déviations actuelles. Bon, ben, ça fait 20 séminaristes. Jamais les séminaristes ne partaient parce qu'on les chassait. C'était les événements extérieurs qui faisaient qu'ils n'étaient plus dans le coup. Mais ça, c'est leur problème, et encore qu'on essayait de les garder. Pour essayer de les former, de les améliorer. Tout ça a finalement disparu derrière un pessimisme qui fait que la nature humaine est telle que ça n'est plus jouable. Mais alors qu'on nous le dise, et qu'on fasse pas prier les sans arrêt les fidèles, Seigneur, donnez-nous des prêtres, Seigneur, donnez-nous beaucoup de saints prêtres, et beaucoup de saintes vocations religieuses. Qu'on dise aux fidèles, c'est plus possible, arrêtez de prier. Il y a un paroissien de Bordeaux qui a accosté Monseigneur Felet à la confirmation à Bordeaux, et il lui dit, Monseigneur, je ne fais plus la prière pour les vocations. Ah, dit Monseigneur, mais pourquoi? Ben, il dit, vous comprenez, ce qui est embêtant, c'est qu'on est exaucé. C'est-à-dire qu'on vous envoie des séminaristes. Eh ben, c'est très bien, dit Monseigneur. Ouais, mais ce qui est embêtant, c'est que ça sert à rien, parce que finalement, vous n'en entendez plus, ou pas du tout. Voilà. Presque pas. Voilà, en gros, le fond de toile. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, il s'est passé que on alerte ainsi l'autorité, on m'a reproché le procédé. Mon procédé est parfaitement évangélique. Si t'as quelque chose avec ton frère, dis-le lui seul à seul, je l'avais fait, et pas seulement moi, mais de nombreux l'avaient fait. Ensuite, l'évangile dit, préviens quelques anciens, prends-les à témoin. Et une société qui se coupe de ses anciens est une société qui va à sa perte. Surtout quand on prétend faire une profession de traditionnalisme. Voilà. C'est quand même, en soi dit entre parenthèses, c'est une technique dans la fraternité depuis quelque temps, hein, de mettre des jeunes loups formatés et apparatchiks pour faire virer les anciens. Ça me paraît pas très conforme à la tradition et au droit naturel. Je ferme la parenthèse. Donc, on en arrive à ceci, que le remède à ce fléau dénoncé et qui mène à terme la fraternité à sa perte, bah, le remède a été de m'envoyer au Mexique. Alors, je vois pas très bien comment ça règle la question du séminaire. Si quelqu'un peut m'expliquer parmi les auditeurs, qui n'hésite pas à téléphoner, si je peux comprendre déjà. Le grand camouflage de l'été a été le suivant. On a dit, l'abbé Laguéry, il a été muté. Ben, c'est faux. L'abbé Laguéry n'a pas été muté au Mexique, il a été sanctionné. Vous comprenez qu'on a fait passer l'abbé Laguéry pour un vilain canard boiteux. Il est muté comme tout le monde, mais lui, c'est une grande gueule et il veut pas obéir. Qu'est-ce que c'est que ce scénario? Moi, j'ai toutes les lettres de Mgr Felet. Elles parlent toujours de sanctions, et même la première qui me renvoie, enfin qui m'envoie au Mexique, elle parle de sanctions exemplaires. Bon, c'est tout. Une sanction, elle est juste ou elle n'est pas juste. Et si elle n'est pas juste, on ne s'y soumet pas. D'autant plus qu'on est en plein effort apostolique à Bordeaux. Ça marchait du tonnerre, grâce à Dieu. Donc c'est vraiment la pure sanction. Et bien moi, je n'oublie pas aux sanctions injustes.
Alors, je vous pose une question qui est difficile à poser, parce que elle est fondamentale. Est-ce que vous n'avez de recours contre la décision qui vous frappe que celui qui a pris cette décision, en somme.
En somme.
Puisque vous êtes coupé de fait.
Pas tout à fait. C'est vrai que j'avais deux possibilités de me soustraire à cette sanction. Et encore une fois, j'insiste pas à cette mutation, à cette sanction. Le premier est un recours prévu par le droit canon à l'intérieur de l'institut, c'est-à-dire de demander au supérieur qui a infligé la sanction, c'est dans le droit canon tout ça, hein, de constituer lui-même une instance, comme ont la plupart des évêques dans les diocèses, hein, ça s'appelle l'officialité, ça juge les causes pénales, et on reconsidère le cas. Alors, Mgr Felet s'y est toujours refusé en disant que c'était une instance qui était créée au-dessus du supérieur général. Ça veut dire que tous les évêques auraient ça. Une instance qui est, dans un diocèse, plus élevée que celle de l'évêque. C'est absolument faux. Et le pape a bien des tribunaux. Est-ce qu'il y a des tribunaux qui sont capables de juger le pape? La réponse, non. Il ne s'agit pas de juger le supérieur qui a infligé la sanction. Il s'agit de juger celui qui se plaint
de
la validité de la sanction et de rejuger, si je puis dire, celui qui se plaint. C'était moi qui devais être jugé, c'était pas monseigneur. Toujours est-il que ce que prévoit le droit canon, Mgr Felet l'a refusé tout l'été, mordicus. Ça, rien à faire. Ce qui, effectivement, m'a amené à une autre démarche, qui est une démarche plus délicate, parce que moi j'ai toujours fait confiance à la fraternité et je ne lui retire pas ma confiance. C'est pas parce que j'ai signalé cette dérive autocratique que je retire ma confiance, ni mes convictions dans la fraternité, je tiens à le dire très fort ici. Et ce n'est pas par doute sur les autorités de la fraternité, j'ai fait un recours à la Rotremaine, j'ai constitué un avocat Rotal, et la Rotremaine rouvre le 21 septembre. Effectivement que ça pose une difficulté parce que la fraternité sacerdotale, ayant cessé d'être reconnue par l'évêque, m'a mis en l'occurrence dans les années 76, il est évident que ça pose une difficulté. Mais enfin, oui ou non, la fraternité Saint-Pédis est-elle soumise au droit canon? C'est quand même une question de fond, ça.
C'est essentiel.
Et on a l'impression que... On m'a répété tout l'été, c'est du jamais vu qu'un prêtre invoque le droit canon contre une sanction. Bah, je suis désolé, c'est du jamais vu dans la fraternité, bah, ça c'est vu maintenant. Il s'appelle l'abbé Léguéry et il a eu raison. C'est tout. Alors maintenant qu'on
bah,
puisqu'on ne peut pas me juger à l'intérieur de la fraternité, j'ai ce recours à la Rotremaine.
Ça peut paraître paradoxal, mais au fond c'est conforme à la position... Enfin, aux relations entre Rome et la fraternité depuis toujours, puisque il y a toujours eu des discussions. La fraternité a été en quelque sorte inspectée par des cardinaux.
Et puis on ne peut pas se prétendre dans la tradition sans respecter la loi multiséculaire et la sagesse de l'Église. Enfin, sinon on s'auto-détruit, on scie la branche sur laquelle on est assis soi-même. Même s'il y a des difficultés doctrinales, la sagesse multiséculaire de l'Église doit prévaloir dans notre institut.
Au fond, il y a peut-être quelque chose, si j'ose dire, le diable porte Pierre. S'interrompre deux minutes pour selon la tradition, c'est le moment ou jamais, mais c'est peut-être ce drame est peut-être porteur de quelque chose.
J'espère.
De positif dans le rapprochement, enfin dans la réintégration de la fraternité à l'Église universelle.
Alors c'est une question dont on parlera tout à l'heure, elle est complexe, elle est très complexe, mais il est vrai que reconnaître le droit canon serait quand même, et l'exercice du droit canon dans la fraternité, dans son intégralité, serait un premier pas d'harmonie entre la Rome, quoi qu'on en pense, et nous, c'est évident.
On en reparle dans deux minutes. Alors, Monsieur l'abbé Léguéry, vous êtes venu de Bordeaux pour exposer votre point de vue sur ce que j'appelle avec un peu d'insistance le drame de la fraternité, parce que je trouve que c'est effectivement un drame. Et on en était arrivé à la fin de la première partie de l'émission, au point où vous nous avez expliqué que vous avez donc fait appel de la sanction qui vous frappe auprès de la Sainte-Rote. C'était un tribunal romain. Et ce qui paraît assez paradoxal étant de, enfin à ce qui paraît ou, en tout cas ce qui est totalement nouveau étant de la position de la fraternité vis-à-vis de Rome et la position de Rome vis-à-vis de la fraternité et mais on peut aussi penser que c'est peut-être ça peut peut-être conduire à un résultat positif dans la mesure où en acceptant de traiter le dossier la Sainte-Rote entérinerait en réalité la validité de l'existence de la fraternité, quelle que soit la décision qu'elle prendra. Après, ça sera aux évêques de la fraternité de gérer ça. Et est-ce que vous avez l'impression que c'est jouable, ça, sans que ce soit un ralliement, sans que ce soit un renouvellement de ce qui s'est passé avec la fraternité Saint-Pierre.
Alors c'est vrai que c'est une grande première dans chez nous, et j'en conviens, elle a stupéfait tout le monde, d'autant plus que venant de ma part, c'était pas vraiment mon style, et je reconnaîtrais volontiers de faire ce recours. Figurez-vous que l'idée m'en a été donnée par Mgr Felet lui-même d'abord. C'est dans une de ses lettres qu'il me dit que, étant donné que chez lui il n'y a pas d'appel possible, ça j'ai pas bien compris pourquoi, eh ben, il vous resterait qu'un recours dans une décision administrative. Je conteste le caractère administratif de la décision de Mgr Felet à mon égard, mais dato non concesso, et c'est lui qui m'indique, ben, vous savez, ben, il y aurait normalement qu'à recourir à la rote romaine. Voilà. Il me disait ça d'un air de dire, ben, voyez, ben, c'est impossible. Moi je me suis dit, après tout, puisqu'il m'a dit la solution, hein, on va y aller. Voilà, c'est comme ça.
C'est la route de Rome, après voilà. Les rugissants.
Il y a la route de Rome et la route de Rome.
Après voilà. Les rugissants. Ah.
Alors, ben, je l'ai fait. C'est vrai que les fidèles se posent une question, j'ai déjà entendu tout à l'heure d'un auditeur, mais alors que va devenir l'abbé Laguéry, il va être Vagus, j'explique pour les auditeurs. Vagus, c'est un prêtre qui n'a plus de rattachement. Et c'est vrai qu'en soi, un prêtre n'a pas à être Vagus. Le plus cocasse, c'est M. l'abbé de Cacré qui me dit ça. Un de ces derniers jours, le subir de district, il me dit vous allez devenir un prêtre Vagus. Bah, je réponds quand même d'abord, quand on est en train de mettre quelqu'un à la porte, on ne lui reproche pas de se retrouver dehors juste après. Enfin, il y a quand même des limites, j'allais dire. Bon. Deuxième chose, bah, à l'heure actuelle, qu'est-ce que la fraternité, si ce n'est 450 prêtres Vagus avec 4 évêques excommuniés à la tête? Bah, attendez, si on raisonne en termes purement canoniques, je n'en fais pas le reproche à la fraternité, qu'on soit ni aux évêques, et encore moins aux évêques. Bon, alors, c'est vrai, est-ce que ça peut induire des incarnations? Est-ce que ça peut... voilà. Je ne sais pas quelle décision je prendrai, il est beaucoup trop tôt pour que je prenne des décisions à l'heure actuelle. Vous avez le cas de l'abbé Aulagnier, par exemple. L'abbé Aulagnier qui a été lui aussi viré l'année dernière.
Alors pour des raisons, d'ailleurs, c'est extraordinaire, parce que vous êtes considéré, vu de l'extérieur, comme un dur de dur de la tradition.
De la fraternité, oui, j'ai toujours été considéré.
Et, alors l'abbé Aulagnier, au contraire, il avait lui la réputation d'être plutôt quelqu'un qui était plutôt partisan d'une entente.
Alors,
avec Rome.
Là, je tiens à préciser quelques petites choses. C'est vrai que l'abbé Aulagnier a été exclu de la fraternité dans une espèce d'indifférence générale, extrêmement choquante quand on sait qui est l'abbé Aulagnier, et je ne le défends pas ici parce qu'il m'a défendu la semaine dernière. Je le défends parce que j'ai enfin l'occasion de dire tout ce que je pense. L'abbé Aulagnier n'a pas été exclu en 2003 de la fraternité, il en a été chassé en 1994. Et je dis que la fraternité devra absolument le réintégrer sous peine de perdre sa consistance. Pourquoi ? L'abbé Aulagnier n'est pas le premier venu. C'est le bras droit de Mgr Lefebvre dans la fondation de son œuvre. Et personne ne peut le contester, ça. Il n'y a qu'à lire son bouquin et la finale de son bouquin, La tradition sans peur. Et on ne se débarrasse pas de quelqu'un comme cela sans une rupture, et au niveau de ce qui nous touche le plus près à tous, nous prêtres, une rupture de paternité, je dirais. C'est extrêmement grave. Et, là, et ça s'est fait dans l'indifférence générale. Alors on a dit, oui, mais vous comprenez, l'abbé Aulagnier essaye d'infléchir la fraternité dans le sens d'un accord comme celui de Campos. C'était parfaitement vrai, et l'abbé Aulagnier a outrepassé là les pouvoirs qu'il avait. Mais je dis que le renvoi de l'abbé Aulagnier ne s'est pas fait en 2003, je dis qu'il s'est fait en 1994, quand après avoir fondé la fraternité avec Monseigneur Lefebvre, il a dirigé et fondé entièrement ce district de France, faut quand même pas l'oublier, et il faisait bon de travailler sous ses ordres, et on lui dit brusquement, et ça correspond à l'arrivée de Monseigneur Feuillet, vous êtes au chômage. Vous apprenez, il avait 56 ans, l'anglais et l'espagnol, pourquoi pas le japonais et le chinois, tant qu'on y est, ou l'arabe et le sanskrit, et vous n'avez plus rien à faire. Alors il s'est tu, il a fait une dépression nerveuse. Voilà ce que je ne ferai pas à l'abbé Laguérie, hein, je rassure les auditeurs. C'est qu'il ne se taira pas et il ne fera pas une dépression nerveuse pour autant. Et il continuera à travailler, il y a du boulot. Hein. Mais lui, il s'est tu, il a obéi. Bon, on aurait dû lui trouver un poste convenable et le remettre rapidement le pied à l'étrier. Non, il n'est pas trouvé pour les langues, il a beaucoup d'autres qualités, mais pas celle-là. Il a fait une dépression. Quand il s'est remis au travail, il n'a cessé d'être embêté pendant 6 ans. Et pourtant, il en a fait du travail. Le Chamblac, le pèlerinage de Lisieux, tout ça, c'est l'abbé Aulagnier.
Bien sûr.
Et puis, brusquement, ben, il a fini par se décourager. Et je ne crois pas que les intentions de fond de l'abbé Aulagnier, qui est une des chevilles ouvrières de la fondation de la fraternité, soit de la pousser comme ça, sans condition, à la va-vite et vite fait bien fait, hein, que je te pousse, c'est le cas de le dire, dans les bras de quelques cardinals romains. C'est absolument faux. Et on a dit, parce que c'est la dernière invention de l'abbé Aulagnier, de l'abbé de Cacré, supérieur district, que finalement, toute la crise de cet été, elle s'expliquait par l'abbé Aulagnier, qui tirait les ficelles, si je puis dire, du pantin à la guérie. Mais c'est un grotesque, mais qui n'a pas de nom, comprenez. S'il y en a un qui revient vers l'autre, moi je travaille à faire revenir l'abbé Aulagnier, et j'y arriverai, vous m'entendez, hein, à faire revenir l'abbé Aulagnier, j'allais dire à ses origines, c'est-à-dire du fondateur, avec Mgr Lefebvre, de la fraternité. Et sans démangeaison aucune vis-à-vis d'un accord bricolé.
Alors si maintenant, vous permettez, je voudrais vous poser une question qui est un peu lourde aussi. Est-ce que vous ne croyez pas que, au fond, le malaise vient du fait que on n'a pas respecté, je crois, enfin, on m'a dit en tout cas, qu'une des volontés très très clairement exprimées de Mgr Lefebvre quand il a créé ses 4 évêques, c'était qu'ils soient des transmetteurs de sacerdoce, mais sans responsabilité d'autorité sur la fraternité.
Je ne crois pas qu'on puisse en tirer un argument pour deux raisons. C'est vrai que Mgr avait déjà dit, il avait écrit qu'il valait mieux que ce soit un prêtre qui dirige la fraternité et que les évêques étaient auxiliaires pour les sacrements à la disposition du super général. Il a un peu varié lui-même là-dessus, puisque quand il s'est agi de remplacer l'abbé Schmidt-Berker, le nom qui avait été chuchoté par Mgr Feuillet et les anciens n'ont pas oublié, par Mgr Lefebvre, pardon, c'était celui de Mgr Feuillet. Parce que justement, on lui trouvait à l'époque, je crois qu'on s'est un peu trompé, on lui trouvait ce rayonnement, cette onction, cette charité, cette mansuétude qu'on n'avait pas trop trouvé dans l'abbé Schildberger, malgré ses qualités. Et donc, il a été un peu désigné. Donc là, on ne peut pas tirer un argument de la volonté de Mgr.
Il y a un deuxième aspect quand même qui éclaire peut-être les choses, c'est le fait que nous, en France, on a l'impression que la fraternité, c'est une œuvre française, sans jeu de mots. C'est quelque chose de... Or, en réalité, c'est quelque chose de très germanique.
Alors c'est vrai que, bon, on a parlé de l'échéance 2006, pardon. Moi, je n'ai pas du tout eu l'intention, quand j'ai envoyé ce document sur les séminaires, d'œuvrer, comme on me l'a reproché, à préparer déjà une pré-campagne électorale. Enfin, c'est un grotesque. Il faut voir le nombre de mensonges qu'on a dit cet été, en particulier dans le dernier Dicci et dans le dernier Corunum. Enfin, c'était une suite de mensonges par omission, j'en profite pour le dire. Maintenant, évidemment, après cet été, où l'on voit que pour remède à un problème signalé dans son séminaire, qu'il nie, qu'il conteste, et qu'il finit par avouer, et puis qu'il renie, etc., évidemment que ça met en cause l'élection 2006. Ça, je le dis tout net, et je ne le regrette pas à l'heure actuelle. Mais qu'on ne m'accuse pas d'avoir fait ça pour cela, c'est absolument inique. Alors, fraternité germanique, moi, effectivement, hein, puisque vous me posez la question en toute amitié, je pense que la fraternité devrait se doter d'un supérieur français et italien, mais qu'on remette un petit peu de latinité, de romanité dans le gouvernement. Bon, ça, c'est une opinion tout à fait libre. On est dans le libre journal, profitons-en, hein, et qui n'engage pas en rien la crise et mes démarches de cet été. Mais il est vrai que Monseigneur Lefebvre décédé, le grand district de la fraternité, c'est et ça restera toujours la France pour de très nombreuses raisons. Et c'est là qu'on voit très bien d'ailleurs pendant cet été que quand la France est touchée, bah, ça touche le monde entier dans la fraternité. Donc c'est vrai qu'il faudrait pourvoir la fraternité d'un chef qui tout en ayant cette fermeté de Monseigneur Lefebvre, en est aussi la charité, le rayonnement, l'esprit missionnaire et une paternité. Car ce qui est un petit peu effrayant, il me semble, et j'ai quand même 25 ans de sacerdoce et je crois que je peux le dire, c'est que cette paternité exercée par Monseigneur Lefebvre, dont l'abbé Ollagnier était quand même le meilleur témoin vivant et le transmetteur, ben, elle est partie un petit peu en quenouille. Et moi, je n'ai entendu tout l'été que des « tirez-vous au Mexique et on discutera après », vous comprenez ?
Ouais.
C'est tout ce que j'ai entendu pendant tout l'été. Et quand je lis dans Dichy, hein, sous la plume de M. l'abbé de Cacré, qu'il a tout tenté pour éviter ça, alors je rigole, mais je rigole complètement, vous comprenez. Les tractations, elles ont duré 16 heures, une nuit comprise. Je rédige deux propositions, parce que l'abbé de Cacré était très affolé, c'était dans la nuit du jeudi 2 au vendredi 3 septembre. Je rédige jusqu'à minuit, avec trois confrères, des conciliations possibles. C'est cette nuit où l'abbé Duverger, mon successeur, rentre par effraction hein, dans le prieuré et qui se fait emmener par la police dans l'après-midi. Enfin, vous voyez un peu l'été qu'on a suivi, parce que j'avais des recours, donc je suis encore prieur de Bordeaux, avec plein titre. Et le matin, je rappelle, dès l'ouverture des bureaux, si je puis dire, l'abbé de Cacré, en lui faisant ses propositions de conciliation. Et puis, à 9h, il me rappelle, j'ai fait vos propositions, mais vous allez recevoir un fax, c'est le fax qui me limoge. Alors là, voilà. Des négociations comme ça, quand on dit la réunion par exemple du Pointé, on lit ça dans Dichy, j'avais demandé une réunion des anciens, parce que je pense qu'un des grands fléaux qui frappe la fraternité, c'est cette coupure avec les anciens. Et ils sont tous d'accord avec moi là-dessus. Hein. On parle d'une réforme du scrutin d'élection du supergénéral qui justement écarterait encore les anciens. Bon, comme s'ils n'avaient pas déjà été assez écartés. Bon. Eh bien, je propose cette réunion. L'abbé de Cacré me dit, et Monseigneur Follet me disent, l'un et l'autre, bon, c'est intéressant, je donne des noms, je peux donner les noms, il n'y a rien, puisque c'est tout à leur avantage, Monsieur l'abbé Cotard, Monsieur l'abbé Ramanenglaise, Monsieur l'abbé Fort, et on s'entend sur les noms. Mais on me dit avant, vous enlevez tous vos recours de droit. Faut que j'arrive, j'allais dire, tout nu à cette réunion. Voilà, après, on fait de vous ce qu'on veut. On a même été jusqu'à prétendre que je voulais que cette réunion d'anciens soit le tribunal que je réclamais. J'ai jamais dit une chose comme ça. Donc les lecteurs de Dichy, on leur ment et ils ne peuvent pas vérifier. Ils ne peuvent pas vérifier. D'ailleurs, pour vérifier, vous lirez Mascaré dimanche prochain, qui dit rien que la vérité, mais toute la vérité sur cet été. Et vous verrez comment cet été n'est qu'un déni de justice et des voies de fait. Parce que bon, je ne vois pas raconter à nos auditeurs qui n'en ont que faire l'été qu'on a subi au prieuré Sainte-Marie, mais c'est un vrai bunker qui est passé à l'assaut avec des canons de 120, attendez, pendant 2 mois, faut pas exagérer. Alors pour revenir à la question quand même plus intéressante de savoir si ça peut faire un rapprochement, c'est la question fondamentale. Moi je veux pouvoir mourir en critiquant les déviations de Vatican II hein, et que ce soit bien clair à tous nos auditeurs, et la nouvelle religion qui s'est instaurée à la faveur des textes de Vatican. Ça, là-dessus, je ne ferai pas de quartier. Et si ce n'est pas Laguérie qui va rejoindre Ollagnier, c'est Ollagnier qui rejoindra Laguérie. Ça, c'est sûr. Est-ce que c'est dire que ça doit se faire dans un mépris, un esprit cédévacantiste? Est-ce que ça doit se faire dans aucune recherche de forme canonique? Je pense pas. L'abbé Olagnier dont je parle, il est incardiné au diocèse de Clermont-Ferrand, il est un prêtre de l'Église catholique, j'allais dire, indépendamment, et on ne lui a rien demandé, ni sur Vatican II, ni sur le Concile, ni sur rien, ni sur la messe. Bon, il est pas raciste du tout, hein, et il n'a pas de ministère, ben on va lui en trouver, c'est pas un problème. Voilà. Donc, il ne s'agit pas de faire une dichotomie entre viendra un temps où les évêques arrêteront de nous sommer de rallier leur nouvelle religion pour nous donner une incarnation. Ça viendra. Si ce n'en est pas venu, j'attendrai. J'ai pas d'état d'âme. Mais pour les fidèles, c'est vrai que un prêtre Vagus, je dis ce que j'en pensais tout à l'heure, je n'y reviens pas, quand ils sont excommuniés là-haut, et je ne leur fais pas un reproche encore une fois, mais c'est quand même plus grave d'être excommunié que d'être Vagus, il ne faut pas exagérer.
Est-ce que vous avez trouvé un soutien manifesté ouvertement ou discret de vos confrères?
Alors, je dirais, il y a l'avant et l'après. L'avant, ma sanction. Avant ma sanction, j'ai trouvé de très nombreux soutiens de confrères. Et je vais même jusqu'à dire...
C'est-à-dire au moment où vous étiez en position...
D'avoir simplement signalé le problème du diagnostic. Voilà. C'est sur le séminaire. J'ai eu des coups de télé, je ne donne pas leur nom, ça va leur faire des ennuis. Hein, mais j'ai eu de très nombreux, des lettres même, et de très nombreux coups de fil de prêtres me disant, ben écoutez, hein, on peut discuter des formes dans lesquelles vous l'avez dit, hein, il y a même des supérieurs districts là-dedans, je tiens à le dire. Mais on est fondamentalement d'accord, ça fait des années qu'on souffre de ça, etc. Alors quand on nous dit, hein, les autorités nous disent qu'au début de l'été, il n'y a pas de problème à l'écho, mais tout ça, c'est du bidon, ça ne tient pas la route, ça ne tient vraiment pas la route. Voilà. Après, évidemment, ils sont bien obligés de faire attention. J'en ai encore, je donnerai encore moins les noms, oui. Parce que ceux qui m'ont soutenu après, ils vont se retrouver, non pas au Mexique, mais au Kerguelen ou en Papouasie, minimum, hein, ou sur la Lune ou Mars. Voilà.
Oui, il y en a qui s'y attendent, d'ailleurs.
Le silence m'effraie.
J'ai appris ça. Vous allez être suivi, si j'ose dire. Sinon, suivi par des gens qui vont vous soutenir, du moins suivi par des gens qu'on va accompagner à la porte.
Tout dépend des autorités de la fraternité. J'ai déjà refusé l'aide de quelques prêtres, d'accord, qui m'ont dit « on vient avec vous ». Parce que j'aime la fraternité, et je peux vous dire que j'aurais déjà plusieurs prêtres à Bordeaux à mes côtés si je leur avais dit « venez ». Et qu'ils le sachent là-haut. Parce que je ne cherche pas, moi, à nuire à la fraternité, je cherche à la remettre dans son esprit missionnaire de son fondateur. Donc pour l'instant, je me refuse à ce petit jeu de décrocher l'un ou l'autre, hein, qui sont un peu plus jeunes que moi, etc. Il est évident que si aucune solution à terme n'était trouvée, je ne resterai pas seul non plus. Ça, c'est une évidence aussi. Veille solide, dit la Sainte Écriture, malheur à celui qui est seul. Bon, j'ai forcément déjà l'abbé Héry à mes côtés, parlons un peu de l'abbé Héry. Enfin, c'est un scandale incroyable. Ce prêtre, qu'est-ce qu'on lui reproche? C'est mon bras droit à Bordeaux, c'est avec lui qu'on a fait Saint-Éloi. Il a été sorti, lui, par une simple lettre du supérieur district, porté par huissier de justice, d'avoir à décamper du prieuré Sainte-Marie un beau matin. Et vous savez la raison? La raison, c'est que quand l'abbé de Cacres, du district, est venu annoncer le 22 août à Saint-Éloi ma destitution, ça n'était pas une sanction, notez bien, devant les fidèles, il a dit, écoutez, il a pris la parole en chair en lisant un petit communiqué que nous avions fait ensemble, donc c'était pas du tout un manque de respect à mon égard, et en disant, écoutez, d'accord, mais l'abbé Laguéry a fait deux recours. Ça me paraît pas révolutionnaire. À la sortie de la messe, on crie à la mutinerie, je vous signale que je suis plus nourri par les sœurs du prieuré depuis 3 semaines, enfin, ça va encore, hein. Mais elles n'avaient pas le droit d'assister à ma messe, pas le droit de recevoir la communion. Enfin, c'est l'été de la terreur, quoi. Et l'abbé Héry, mon confrère, il a simplement pris la défense, hein, de son prieur, si je puis dire, son curé, en disant, ben attendez, c'est pas si simple que ça, hein, il faut pas qu'il parte au Mexique tout de suite, comme on vient de vous le dire, parce que d'abord c'est une sanction, et qu'il en a fait recours, et que ce recours est suspensif. Voilà pourquoi il est chassé de la fraternité. Vous comprenez que pour camoufler les difficultés du séminaire, et pour leur laisser couper les têtes des séminaristes plus à loisir, ben on décapite maintenant un prêtre pour trois fois rien. Et mon bon confrère, l'abbé de Tannoir, hein, lui, on l'a accusé d'avoir écrit l'article 2 minutes. Malheureusement, c'était faux. C'est pas lui qui l'a écrit. Sinon, hop, il partait. La vaisselier qui est si...
C'est heureusement qu'il a les épaules larges, parce qu'on lui en fait porter beaucoup.
C'est sûr. La vaisselier devrait faire attention, parce que la vaisselier, il était sur la liste bien avant la guérie, et bien avant Tanoirne, et bien avant Éric. Alors, parce que quand même, les gens de Chiré en Montreuil, ils l'aiment pas tellement.
Oui.
Hein, et je peux vous dire que la première tête programmée dans la saison 2004, c'était celle de la vaisselier. Alors, je comprends qu'ils mettent les bouchées doubles.
Je sais pas si c'est les gens de Chiré en Montreuil, c'est des gens qui vont à Chiré, c'est pas tout à fait la même chose.
J'ai pas dit que c'était l'équipe de Chiré en Montreuil.
Parce que,
mais tout de même.
Je trouve d'ailleurs extraordinaire, moi aussi je vais quand même exprimer là, des choses un peu virulentes, que on trouve dans cette attitude, dans cette position, dans cette situation et dans l'attitude de Mgr Felet, on retrouve derrière la griffe, au sens de la signature, bien entendu, de gens comme Couvert ou de gens comme Plomplon. Enfin, c'est ahurissant de penser que ces gens arrivent à jouer un rôle au sein de cette maison.
Mais non seulement ils jouent un rôle, je peux vous dire que si je dis ici sur les ondes, c'est parce que j'en ai la preuve, évidemment, que la première tête programmée n'était pas celle de la Guérie, ni celle de Tanoir, ni celle de la Béry, mais bien celle de Cellier, c'est que ces gens...
Parce qu'il a publié le bouquin de Cernine.
Du bouquin de Cernine, sont allés trouver Mgr Felet en lui disant, écoutez, c'est pas possible, vous laissez la tradition infectée par la gnose.
Parce que ce sont des malades.
Et Mgr Felet de leur répondre...
Avec des méthodes de maître chanteur.
Écoutez bien, je ne peux pas, pour l'instant, il demande carrément deux ou trois têtes. Pas la mienne, j'étais pas sur la liste. Bon, donc je peux en parler tout à loisir. Il demandait deux, trois têtes, dont la première était celle de Cellier, hein, et Monseigneur leur répond, écoutez, pour l'instant, je peux rien faire, mais on verra, hein. D'accord. Autrement dit, je m'occupe de ça. Attendez, est-ce que la tradition est gnostique? Je pose la question. Est-ce qu'ils vont arrêter de nous casser les pieds, hein, comme si y avait un gnostique partout dans votre appartement, les souris qui filent sous la table? C'est la bêtise à l'état pur. Il y a bien quelques gnostiques qui existent, mais pas chez nous. C'est ahurissant. Donc, si vous voulez, il y a une espèce de chasse aux sorcières, hein, comme disait si bien Madiran dans son truc. Et c'est vrai qu'il y a des têtes.
Oui.
Il y a des têtes.
Ben oui.
Et bien, moi, je dis, il faut des têtes et il faut des fortes têtes même pour tenir. C'est pas les béni oui oui qu'on va nous ordonner après 5 ans de crainte à frôler les murs et à ne craindre qu'une chose, c'est de se faire virer, qu'on va faire des prêtres qui vont tenir dans la crise. Alors, la question de Madiran, il y a des têtes, hein, mais faut-il donc bien les couper? Est-ce que voilà la question.
On va rabaisser les cacres, surtout.
Vous ne pouvez pas résister, moi.
Pas du respect, je vous prie. Pas du respect. La question est trop...
C'est fait.
Trop grave.
Maintenant, les fidèles, comment réagissez-vous?
Alors, à Bordeaux, bah, les fidèles, évidemment, sont troublés. Hein. La crise a été transportée complètement artificiellement des cônes à Bordeaux. Et on n'a pas réglé celle des cônes, loin s'en faut, par les deux, trois petites réformettes qui ont été faites, même si on y a apporté des prêtres de valeur, je pense. Mais l'été a démontré que la crise n'était pas tant à Icônes que dans l'exercice de l'autorité de la maison généraliste. Hein. Ça, je n'hésite pas à le dire, il faut bien le dire. Un prêtre du séminaire a dit, c'est vrai qu'on est drastique avec les séminaristes, mais si on écoutait les consignes, on le serait encore plus. Donc vous voyez bien que la crise n'est pas là. Alors la crise a été transportée artificiellement de Metzingen à Bordeaux, par la sanction déguisée en mutation de l'abbé Laguérie. Moi je trouve que les Bordelais tiennent très bien, puisque avec l'église Saint-Éloi qui est comble tous les dimanches, ça se passe très bien. Je ne suis pas au chômage. Je suis plus nourri, je suis plus blanchi et je suis plus bientôt plus logé, encore que bon, je me débrouillerai, hein, si les auditeurs veulent m'aider, qu'ils n'hésitent pas. Je suis en plein travaux aussi, mais ça tient admirablement. Mais de toute manière, la question pour moi n'est pas là. Elle n'est pas chez l'abbé Laguérie, elle n'est même pas à Bordeaux. Elle est de savoir si la tradition, et particulièrement la fraternité Saint-Pilice, et plus particulièrement encore le district de France, va renouer avec l'esprit missionnaire et la charité de son fondateur. C'est ce pourquoi nous nous battons. Ce n'est pas pour faire une guerre de tranchées entre confrères, même si j'ai maintenant des ennemis nouveaux. Qu'est-ce que vous voulez, moi je leur pardonne, hein. Je suis chassé, je suis exclu, très bien, ben, je leur pardonne. Mais la question n'est pas là. La question n'est pas là. La question est de savoir si on va repartir et si on va former des espèces de clonages au séminaire qui sont de purs exécutants, de purs apparatchiks, qui sont sûrs de défroquer dans les 5 ans. Il faut le dire. Parce qu'un prêtre qui aujourd'hui n'a pas une forte personnalité, il est fichu. Enfin, c'est évident. Avec les sollicitations de ce monde de ténèbres partout et la puissance médiatique, sonore et de nos ennemis, si vous êtes un béni oui-oui à la sortie du séminaire, votre compte est bon, hein. Votre compte est bon. Alors je dis qu'il faut reprendre les choses à la base. Il faut un changement de personnel important, mais pas seulement de personnel. C'est pas en déplaçant Pierre-Jacques Jean qu'on va régler la crise de cet été 2004. C'est en réaffirmant les principes fondamentaux et fondateurs de la Fraternité Saint-Pédilis. C'est qu'elle est essentiellement un institut missionnaire, essentiellement avec cette charité prise évidemment dans la contemplation de Jésus-Christ. Mais regardez les sermons, on se demande parfois si certains prêtres ont simplement lu l'évangile. Non mais on en est à se poser la question. Moi pourquoi je fais une petite rubrique dans Mascaré, l'évangile inconnu? Ben parce que l'évangile est devenu inconnu. Bon, je m'adresse à des fidèles, mais il y a des fois quand on entend des sermons qui ne roulent que sur la tenue vestimentaire pendant un an, ben on se dit, est-ce que c'est ça l'évangile? Est-ce que c'est comme ça qu'on va remplir les églises et les séminaires? Je pose la question. Il y a quand même là une question grave par-delà. Alors que si vous écoutez les conférences de Mgr Lefebvre, il n'a parlé que de Jésus-Christ, homme-là. Pendant 60 ans. C'est tout, c'est pratiquement... Voilà quel était son... j'espère, moi, continuer, comme lui, à parler de Jésus-Christ, haut et fier.
Ben, pour tout vous dire, on espère que vous allez continuer longtemps encore.
Alors, on a voulu m'assassiner, je termine par là. Je suis mort au niveau de la fraternité, apparemment. Hein. Je dis simplement, mortus aduc loquitur. Le mort parle encore. Et j'ajoute même, il va parler beaucoup plus que quand il était vivant.
Merci monsieur l'abbé Laguérie.
On ne peut pas lire du tout le message.
Si, je remercie, mais j'allais dire, effectivement, pardon. Maintenant, nous allons donner la parole aux auditeurs. Ce que je vous demande, si vous en êtes d'accord pour gagner du temps, c'est de répondre, faire une réponse globale et conclusive.
C'est vous qui l'arrivez.
Serge, pour les sermons à propos de ce que dit monsieur l'abbé, ça fait quand même au moins 3 ans que 6 fois par semaine, on parle des sermons.
Oui.
Hein, j'insiste pas là-dessus, on parle des sermons, on en parle, quoi. Hein.
On en a beaucoup parlé.
Voilà.
Ouais, c'est évident.
Alors, quand je parlais tout à l'heure de Trublion, c'était bien du camarade syndicaliste Laguéry qu'il s'agissait. D'après vous, si ce que vous prétendez est exact, quelles sont les raisons pour lesquelles les séminaristes sont renvoyés? Ça revient.
J'ai peut-être des questions d'avant.
Allez-vous fonder un nouveau campus en France?
J'ai répondu à cette question.
Voilà.
Non.
On arrête.
Pour l'instant, c'est non.
On n'arrête pas du tout. Et je l'ai lu puis vous n'arrêtez que quand ça.
Mais s'il y a quelque chose d'original.
C'est quelque chose de fait. Voilà. Combien reste-t-il de prêtres parmi ceux qui ont été ordonnés en même temps que vous? Monsieur Lévy.
De ma promotion, on était très nombreux, nous. On a été ordonnés en 79, on était 29. Vous entendez? 29 en 79. Et il y a eu quelques échecs, mais ça se maintient très honorablement. Hein, très honorablement.
Monsieur l'abbé, vous refusez d'obéir aux 4 évêques que Mgr Lefebvre avait choisi pour continuer son œuvre, tout en vous réclamant de lui, n'est-ce pas contradictoire? Infidèle qui vous désapprouve.
Voilà, j'ai répondu à cette question.
On obéit
à une mutation, on n'obéit pas à une sanction.
Comment se fait-il qu'un abbé aussi formidable que l'abbé Laguérie n'arrive pas à s'entendre avec des supérieurs si éclairés comme Mgr Williamson ou Mgr Tissier-le-Malaret? Vous admire tous et j'aimerais bien qu'ils s'entendent.
Moi aussi.
Tout notre soutien à Monsieur l'abbé Laguérie, que l'on traite honteusement pour avoir dénoncé le problème du séminaire, mais surtout la dérive sectaire dans laquelle la Fraternité Saint-Pédis semble se complaire depuis quelque temps. Gardez courage.
Je n'ai pas employé le mot, mais c'est conducteur.
Si Monsieur l'abbé Bouchacourt a eu une promotion en étant nommé en Argentine, cela veut-il dire que l'abbé Beauvais a été sanctionné en étant nommé à Saint-Nicolas?
C'est un retort, celui-là. C'est un retort. En tous les cas, j'en profite quand même pour signaler quand même que un certain nombre de prêtres, je donnerai un exemple, dont l'œuvre marchait merveilleusement, on leur a coupé les ailes en plein succès. Je pense à ce cher confrère, monsieur l'abbé Ramon Englez, qui avait pris notre école du Kansas. C'était une boîte énorme. Quand il l'a pris, elle avait 800 élèves, vous entendez? Et il l'a lâché 6 ans plus tard avec 3 3000 élèves avec toutes les familles des, enfin, un lycée quoi, un immense. Bon, sur les plaintes dérisoires de quelques vieilles moustachues, et hop, on l'a rapatrié et il s'ennuie comme un rat mort en Irlande. Alors je dis, c'est peut-être pas le.
Vous savez ce qui est devenu l'abbé Simoulin?
L'abbé Simoulin est supérieur district de. Non, c'est-à-dire qu'il était supérieur district. Ouais. Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il voilà. Je ne sais pas quelle est son affectation.
Les séminaires sont en capilotade, la charité dans la panade, la fraternité, elle est malade, mais si l'on écoute la guérie, la fraternité, elle est guérie.
Oh,
c'est hypocrite.
Quand les termes et les glaces, ces choses-là sont mises.
Pourriez-vous nous dire s'il y a un changement de doctrine au point de vue de la foi, ce qui expliquerait peut-être cette erreur de jugement à votre endroit?
Je ne crois pas qu'il y ait à l'heure actuelle d'erreurs de doctrine qui s'opposent, mais je mets en garde que ça finira par en faire. Et que si on croit dans un, j'ai fait allusion, si on croit un tel pessimisme de la nature humaine et une incapacité de la grâce à y remédier, on finira, oui, un peu dans l'hérésie. L'hérésie cathare ou l'hérésie calviniste ou celle de Jean Hus en particulier.
À la suite de l'émission d'Olivier Petitchon sur Radio Courtoisie, une question a été posée à l'abbé Cellier pour lui demander s'il avait un conseil à donner à l'abbé Laguérie. Pour régler cette affaire, réponse de l'abbé Cellier, je dirais à l'abbé Laguérie de prendre le volant de sa voiture et de se rendre à Menzingen, en Suisse, et d'y rester jusqu'à ce qu'il ait trouvé une entente avec Monseigneur Follet.
J'ai fait ce voyage pendant l'été, quoi qu'on en ait dit. J'ai fait quand même 2000 kilomètres pour rencontrer Monseigneur Follet à Sierre, et j'ai entendu, un, votre mutation n'est pas remise en cause. Deux, quand je proposais le réexamen de quelques dossiers de séminaristes, on m'a dit c'est non. Et tout à l'avenir. Donc, j'ai appris là que j'étais prieur comme au Mexique, alors que j'ai été nommé sans affectation particulière. Donc j'avais pris quand même un petit peu de galon. Ça me changeait beaucoup les choses. Et puis voilà. Et puis ça n'a rien donné. Donc je suis prêt à faire 2000 kilomètres, mais pas pour rien.
Ne pensez-vous pas qu'il y ait des taupes qui se soient intégrées à Écône? Et autre message sur le même sujet, merci pour cette émission animée. Peut-on émettre l'hypothèse que Monseigneur Follet soit un sous-marin dont la mission secrète serait de couler la fraternité?
Je laisse à cet auditeur l'initiative de sa remarque.
Estimez-vous qu'il y aurait un blocage pour un accord avec Rome venant de Monseigneur Follet? J'apprécie beaucoup Monsieur l'abbé Laguérie. Mais qu'ils ne se laissent pas récupérer par l'abbé Aulagnier. Leur problème n'est pas le même.
Exactement. C'est l'abbé Laguérie qui va récupérer l'abbé Aulagnier.
Le problème des cônes se pose dans beaucoup de séminaires, en particulier dans celui de la communauté Saint-Martin à la Motte-Beuvron. Une de nos amies a eu un fils qui a été viré comme un malpropre au bout de 12 ans de séminaire, sous prétexte qu'il n'était pas fait pour la vie en communauté.
12 ans de séminaire, ça fait quand même beaucoup.
Quand même
beaucoup.
Je ne sais pas ce qu'il
faisait, mais il a même eu de mal dans les études quand même.
Il
a redoublé quelques fois quand même.
C'est tout. Dans une communauté, il faut obéir. La principale faute est d'avoir mis tout cela sur la place publique.
C'est une très bonne remarque, celle-là. Ce n'est pas l'abbé Laguérie qui a mis ça sur la place publique. Son document était confidentiel et envoyé à 30 prêtres. C'est la mutation sanction de l'abbé Laguérie qui a mis le feu aux poudres. Et deuxièmement, le premier à mettre la place sur la place publique, c'est monsieur l'abbé de Cacret, en venant annoncer devant mes 600 fidèles ça c'est public, ça, hein. Avant, c'était pas public. De Saint-Éloi, que j'étais muté. Et c'était faux, en plus. J'étais sanctionné. Donc, là, j'ai aucun complexe à ce niveau-là, hein.
Pourquoi les jeunes de l'abbé Laguérie disent, laissez-nous l'abbé Laguérie ou nous rejoignons la fraternité Saint-Pierre? Quelle est la corrélation?
Ben, je dis aux jeunes que je reste avec eux, donc qu'ils ne se posent pas la question.
Ne pensez-vous pas qu'il y a une grande... Bon, j'ai... Ah si. Qu'il y a une grande...
Un besoin
d'obéissance au séminaire, et que les séminaristes n'ont pas appris l'obéissance de leurs parents.
Mais ils obéissent, ils obéissent autant qu'on peut obéir.
Je pense qu'un major de Saint-Cyr, un X ou un jeune capitaine, il a dû apprendre à obéir une fois ou deux dans sa vie.
Et puis, a fortiori, les petits jeunes qui rentrent avec trois poils au menton, ils obéissent. Hein. Je peux vous dire, non, il n'y a pas d'indiscipline au séminaire. Non.
La crise du MJC de 1990 a justement...
MJCF.
MJCF, ouais.
Ou justement, Avril n'acceptait plus que des animateurs formatés n'était-elle pas un prémisse de la crise actuelle ?
Un petit peu. À force de ne faire jamais confiance aux fidèles, à force de ne faire jamais confiance à personne, de se méfier de tout le monde. On a parlé de Chiré tout à l'heure. Je ne mets pas Chiré en cause. Mais on peut parler aussi des Dominicains. À force d'introduire et de laisser se répandre, ce n'est pas le gnosticisme qui est dangereux dans la tradition. C'est cet esprit-là qui fait qu'il n'y a plus de charité, il n'y a plus d'entente, il n'y a plus de confiance, il n'y a plus etc. Ça, c'est une dérive qui peut être... Et je trouve que la question de l'auditeur est parfaitement sensée. Oui, tout à fait.
J'écoute avec intérêt votre discours, mais ne pensez-vous pas qu'en opposant les vieux loups de la tradition aux nouveaux jeunes prêtres, vous faites de la dialectique marxiste ? Auquel cas, ce serait regrettable, sachant qu'il y a le très bon jeune prêtre.
Mais c'est vrai, ça. Alors là, la question est excellente. Seulement, c'est pas moi qui dis ça. Je pense à M. l'abbé Laurençon qui ne l'avait pas inventé et qui sciemment disait qu'il enlevait tous les prêtres anciens de postes de responsabilité. Il était super district, hein, et jamais il aurait pris une initiative comme celle-là, et que c'était bon, il fallait laisser place aux jeunes, et il l'a même dit dans son pot de départ à Suresnes. Donc c'était pas seulement une interprétation de l'abbé Laguérie, c'était une pratique que sanctionnée par le discours du supérieur district de l'époque. Donc ça n'est pas, on peut pas le remettre en cause d'aucune manière. Et je dis que ça, c'est extrêmement grave. Et parlez-en aux anciens, et ils vous diront que se couper de la source par un mépris relatif des anciens est une chose catastrophique pour une société religieuse. Et pour toute société.
Vous péchez par orgueil, soumettez-vous, obéissez, vous méritez largement vos sanctions. Bordeaux, Saint-Éloi ne vous appartient pas. Vous avez, par votre attitude, sapé la fraternité. Vous feriez mieux de faire une retraite plutôt que de vous répandre en tract ou à la radio.
C'est un ami qui vous dit bien.
Monsieur l'abbé Laguérie peut-il nous dire s'il est d'accord avec la déclaration de fidélité à Rome que l'abbé Olagny a lue lundi dernier à l'émission de Monsieur Valadier, et si l'on peut espérer un accord avec Rome du côté de l'église Saint-Éloi?
Je n'ai pas lu cette déclaration de Monsieur l'abbé Olagny. Il m'en a parlé au téléphone, il n'avait pas de fax ou j'en avais pas, donc j'attends de la lire pour donner mon avis. Si c'est une déclaration de fidélité purement et simplement, je vous dis, j'ai déjà répondu tout à l'heure, ça ne m'emballe pas du tout.
Est-ce que vous avez des nouvelles de la femme... Oh pardon, c'est autre chose.
Mais non, c'est
autre chose. C'est la femme qui a été poignardée dans le 14e. Non, c'est autre chose.
Ah oui, non, c'est pas...
Ça s'est mélangé.
Je n'ai aucune nouvelle. Je vous promets que j'y étais pas.
Ça s'est mélangé avec l'état de... Bon, comment la fraternité socialiste peut-elle être à la fois... Peut-elle à la fois légitimer la désobéissance à Jean-Paul II, qu'elle reconnaît comme le vicaire du Christ assisté du Saint-Esprit, et ayant le charisme de l'infaillibilité, et refuser à ses prêtres toute contestation intérieure, s'accompagnant... C'est ce que l'hebdomadaire Rivarol qui s'interrogeait de cette façon.
Alors écoutez, les différents doctrinaux sont des différents doctrinaux, et puis à l'intérieur, il s'agit de choses disciplinaires. En principe, moi je ne suis pas un contestataire, hein, j'ai 25 ans de sacerdoce et 31 de soutane, je l'ai dit, j'ai toujours obéi jusque-là, hein, et sans état d'âme, et que je le ferais encore si j'avais à le faire. Mais je vous dis, la sanction comme ça, gratuite et pour exemplaire, tout ça, c'est fini.
N'est-ce pas dans un but politique que M. l'abbé Laguérie a été évincé ? M. l'abbé Laguérie a parlé de jeune loup apparatchik. Or, il a été curé sans jamais avoir été vicaire.
C'est faux. J'ai été 4 ans vicaire de M. l'abbé Laurençon à l'école Châteauroux, Saint-Michel de Châteauroux. J'ai été 4 ans vicaire.
Puisque maintenant vous êtes exclu, comment voyez-vous votre avenir ?
Je le vois pas encore tout à fait, mais si, mais ça va venir. On reviendra voir Serge de Belquet chez nos amis.
Si Monseigneur Felet mutait l'abbé Laguérie à Écône, accepterait-il de d'y aller et de quitter Bordeaux?
C'est pas mal comme question. C'est pas mal. Je me la suis pas posée. Je réfléchirai.
Personnellement, non. Pour ceux qui savent, il aurait fallu chasser plutôt la taupe au lanier.
Ça, c'est pas gentil.
C'est pas gentil.
C'est pas gentil, ça. C'est pas
juste. L'abbé Laguérie, justement vient de dire qu'il faisait bon travailler sous les ordres de l'abbé Aulagnier.
C'est vrai, ça.
Qu'il demande à l'abbé de Lamotte, son vicaire de Caen. Ah oui, alors vous avez dit ça, mais demandez donc à l'abbé de Lamotte, son vicaire de Caen.
Bon, quand moi, j'ai Lisieux, jamais été dans le même prieuré que l'abbé Aulagnier, mais je peux dire que c'est quelqu'un, quand j'étais à Saint-Nicolas, qui passait tous les 8 jours faire le bilan, et on s'entendait à merveille, il nous encourageait, et il avait toujours le moral, il laissait le soleil partout où il passait. Attendez, bon, il y a eu des difficultés par la suite, mais fondamentalement, la charité de Mgr Lefebvre était chez l'abbé Aulagnier.
À l'attention de Monsieur l'abbé Laguérie, Saint-Germain-l'Auxerrois, Saint-Éloi, même combat.
Pas tout à fait. Je suis arrivé à Saint-Éloi dans la plus pure légalité après 3 ans de négociations. Il ne faut pas tout mélanger.
Monseigneur Ricard a-t-il joué un rôle dans toute cette affaire? Qu'en est-il de l'église Sainte-Colombe de Sainte?
Monseigneur Ricard n'a pas joué de rôle. En revanche, l'abbé de Cacré lui en a fait jouer un, et pas des plus sympathiques. Songez qu'il y a une réunion secrète au principal intéressé de l'affaire Saint-Éloi, c'est-à-dire votre serviteur. Il y a eu quand même une rencontre secrète entre l'abbé de Cacré et Monseigneur Ricard, au terme, pour parler de Saint-Éloi, dans mon dos, je l'ai appris par une gamine qui a vu l'abbé de Cacré sur le quai de la gare, et par l'abbé Aulagnier, et comme 4 conditions de remettre Saint-Éloi à la fraternité, il y avait de faire taire Laguérie.
Oh.
Et c'est pas gentil.
À quelle date, ça?
Ça, c'était au mois de, que je dise pas de bêtises, c'était au mois de mai.
Donc mai. Avant.
Avant.
Avant tout ça.
Avant tout ça. Faire taire Laguérie. Non pas le muter comme on a raconté, ou lui couper la tête, mais le faire taire, c'est l'abbé de Cacré qui me l'a lu.
Vaste entreprise.
Vaste entreprise.
Attendez-vous.
Attendez-moi,
Victoria.
Oui.
Vous pouvez répéter ça, s'il vous plaît.
Ça vous paraît hallucinant? Oui. C'est la plus pure vérité.
Alors, très précisément, il y a eu une réunion entre...
Très précisément, je gère le dossier de Saint-Éloi depuis le début. Ça a été 3 ans de négociations, et puis finalement, on a signé la convention le 29 janvier 2002, et nous nous y sommes installés après avoir débarrassé les gravats, le 22 septembre 2000, de la même année, 2002. Voilà. Vous savez qu'il y a eu 2 procès intentés par la mairie, par l'évêché contre la mairie, et que les 2 procès ont été perdus. Voilà. Moi, je pensais rencontrer Mgr Ricard et d'un commun accord avec l'abbé de Cacré, mais il s'est passé ceci, c'est qu'effectivement, l'abbé de Cacré a pris l'initiative, mon super district donc, pour ceux qui ne savent pas, a pris l'initiative de rencontrer Mgr Ricard, et il ne m'a pas tenu au courant. Et non seulement il ne m'a pas tenu au courant, je l'ai appris, je vous dis, par une gamine qui l'a vu sur le quai de la gare. Et de fil en aiguille, j'ai remonté parce que la Bolanie avait un rendez-vous à titre personnel 3 jours, enfin le jeudi précédent, suivant, avec Mgr Ricard pour ses affaires personnelles. Eh bien, je ne l'ai pas inventé, ça, le rapport qui a été fait de cette rencontre, qui a été rédigé par l'abbé de Cacré et qui me l'a lu dans son bureau de Suresnes, avec 4 conditions au terme desquelles Mgr Ricard voulait bien laisser Saint-Éloi à la fraternité. La première, c'est qu'on reconnaisse son droit d'affectataire. La deuxième, c'est qu'il nomme un curé postiche, c'est-à-dire puisqu'il est affectataire, il y met un curé. Mais troisième condition, il nous la laisse par bail ou par convention ou par commodat. Et quatrième condition, que Laguérie la boucle. Je parle français.
C'est énorme.
C'est incroyable.
Laguérie se taise.
Et tout.
C'est des choses plus précises. Enfin, il en est des institutions humaines comme des cellules biologiques qui ne se reproduisent que par division. On a constaté cela au front, maintenant c'est à la fraternité. Radio Courtoisie participe vraiment à faire l'histoire cette semaine.
Merci.
Alors, question précise. Monsieur l'abbé Philippe Laguérie pense-t-il aux confirmations de nos enfants? A-t-il pris contact avec Mgr Ricard pour une cérémonie traditionnelle? Une paroissienne de Saint-Éloi qui écoute Radio Courtoisie sur Internet.
Eh bien, je la félicite, cette paroissienne. C'est vrai que c'est un souci. Moi, je pensais qu'il y aurait suffisamment de débonnaireté de la part de mes supérieurs de la fraternité pour dire, écoutez, pour Pour ce qui est du sacrement de confirmation, bon, on pourra les inscrire peut-être à la chapelle de l'île ferme ou même bon, envoyer un évêque à Saint-Éloi, je ne sais pas, c'est peut-être un peu difficile. Enfin, je pense quand même que sur la question des confirmations, si je ne peux pas envoyer mes fidèles auprès d'un évêque de la fraternité, alors là, je parlerai et encore plus fort. Parce que ce serait scandaleux. Monseigneur a fait ses évêques pour qu'ils donnent les confirmations et les ordinations. Les ordinations sont bientôt au chômage, alors s'ils n'ont pas les confirmations à donner, je me demande où on va.
Je commence à comprendre pourquoi Monseigneur Felet redoute tant Rome. C'est parce qu'il utilise les mêmes armes. Négociation sous conditions inadmissibles. Alors, l'abbé Simoulin, c'est un renseignement qu'on vous donne, est au repos chez les dominicaines de Romagne.
Voilà, c'est ça que je voulais dire.
Et Dieu, dans tout cela, où est-il?
Il est dans les prochains sermons qu'on va faire. Soyez tranquille.
Une auditrice suggère que l'abbé Laguéry termine cet entretien par un « Je vous salue Marie » en rappelant que le mois du rosaire approche et que seule la Sainte Vierge peut intercéder pour que tout cela s'apaise.
Je veux bien, mais une fois la corde. De Serge de Mecque.
Tous ensemble. Quel sera le sort de l'abbé de Tannouarn?
Pour l'instant, son sort tient à un fil.
Et puis, question pratique. Un gros fil.
Un gros fil, oui.
Que faut-il?
Un câble.
Oui, il est pas...
Alors, des questions pour vous. Que peut-on faire pour vous soutenir? Où peut-on vous écrire? Je suis d'une vieille famille... Ah, je suis d'une vieille famille catholique. Depuis 22 ans, je suis entrée dans l'orthodoxie où c'est la paix et la joie. Je prie pour les derniers prêtres catholiques. Cela me brise le cœur de voir ce qui leur arrive.
Non, c'est pas une solution.
Non.
C'est pas une solution.
Je vous trouve sensationnel, vaillant et courageux. Je me permets de vous mettre dans mon cœur et dans ma prière.
Oh, voilà une jolie conclusion.
Et puis alors là, que faire pour vous soutenir? Où peut-on vous écrire? Donnez-nous l'adresse du Mascaret ou vos coordonnées et merci pour tout.
Voilà, tout ça est en changement, donc je ferai passer ça d'une autre manière. Vous aurez Mascaret qui sera vendu à Bordeaux, bien sûr. Les abonnés vont le recevoir. Il y aura toutes les nouvelles adresses, les nouveaux numéros de téléphone, de fax. Et même les Parisiens pourront avoir ce numéro dimanche, sans trouble, un peu au-delà de Saint-Éloi. Regardez dans les rues adjacentes de Saint-Nicolas, vous trouverez Mascaret en toute paix. J'espère qu'on n'aura pas des nervis sur le dos qui nous empêcheront de le donner. D'ailleurs, ce n'est pas une vente, je vous le signale. Ce sera un don. Un don qui peut s'accompagner d'un don de celui qui reçoit.
Et tiens, on peut mettre en conclusion aussi, monsieur l'abbé Laguéry, bravo pour votre énergie. La fraternité a besoin de vous et de prêtres tels que vous. Nous espérons que vous pourrez rester à Bordeaux, car Saint-Éloi a besoin de votre courage et de votre force.
Merci.
Merci de conclure. Alors,
j'ai rien compris du tout.
Non, mais ça m'étonne.
Pourquoi
pas,
vous n'avez pas le Mexique?
On y reviendra un peu, ne vous inquiétez pas. Il fallait pas dormir. Je sais pas comment faire.
Qu'est-ce que vous savez?
Il y a quelques années, j'avais reçu ici une catholique dans cette émission, une catholique albanaise, à qui j'avais demandé de réciter le Notre Père en albanais. Elle l'a fait. Je vois pas pourquoi on ne demanderait pas à l'abbé Laguéry de réciter le « Je vous salue Marie » en français.
Ah oui, français. Tout à fait. Et c'est ce que nous allons faire en nous levant. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il.
Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Un grand merci.
Merci à vous, Monsieur l'Abbé. Et puis,
un grand merci.
Les portes de cette émission vous sont ouvertes. Quand vous voulez, vous venez nous dire.
Je connaissais
comme elles sont ouvertes d'ailleurs.
Et vous êtes dans notre cœur, mon Père.
À toutes les parties en cause dans cette affaire. Donc j'espère vraiment, je sais que tout le monde espère que la solution sera trouvée.
Moi aussi, j'espère.
À très bientôt.
À très bientôt, et merci encore.
Mon cher François Plantet, Air Doctor, il ressemble plus à de plus en plus à un Air Doctor.
Et à vous,
avec le crâne rasé comme ça.
Et à vous, Air Mayor.
Alors, on a prévu de parler d'un livre capital ce soir, dont on a déjà parlé.
À l'occasion de nos notes de vacances.
À l'occasion de nos notes de vacances. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, et beaucoup d'auditeurs le disent, à dramatiser un peu les choses, à caricaturer, enfin pas à caricaturer, mais à donner toujours une version triste, noire de l'actualité. Et il faut dire que c'est assez difficile de ne pas le faire quand on voit justement cette actualité. Mais il y a quand même on est obligé de faire des constats, on est obligé de voir que, on en parlait en première partie d'émission, on a l'impression de vivre, moi je répète ça tout le temps, parce que c'est une impression de plus en plus forte, de vivre dans un monde de fous, ou comme vous le dites parfois, de détronchés, ou d'effrontés.
Ça fait un moment qu'on évoque ce cataclysme, et maintenant ça a dépassé un degré, je pense. Hein, c'est un monde qui devient manifestement... possédé par le démon. Enfin, il y a une dimension terrifiante. Il suffit d'aller dans la rue et de regarder des gens téléphoner avec ces téléphones portables qui doivent être probablement directement fixés dans le thalamus et puis dans quelques zones moins avouables. On entend derrière soi un rire et qu'est-ce qu'on voit ? Un individu qui dépasse de loin tout ce que j'ai vu dans les hôpitaux psychiatriques. De mon temps, cela, comme disait mon camarade Ruffaut qui a mal tourné, les fous, on les aime, on les prend, on les pique, on les enferme, on leur casse la gueule et ils sont tranquilles. Bon, cela ressemble en bien pire à ce qu'on voyait dans les hôpitaux psychiatriques. C'est terrifiant et ces gens sont... Je vous ai raconté 10 fois parce que je suis tellement agacé, voire exaspéré, qu'il m'est arrivé de me mettre devant, nez à nez, hein, disant mais... Enfin, je vous dirai pas les grossièretés que j'ai dit, et visiblement, ces gens ne voient plus. Les zones associatives du cortex visuel ne fonctionnent plus. C'est quelque chose de terrible.
Ouais. Ça, c'est les patineurs, les cyclistes de trottoir.
Les cyclistes grotesques, les gens qui
les pousseurs
passent à l'envers.
Les pousseurs de landau qui ont votre faveur tout à fait particulière.
Les pousseurs de landau qui représentent probablement une des êtres les plus répugnantes de cette époque, quoi. Ça, c'est évident.
Et, alors que les pousseuses de landau, c'est adorable.
C'est adorable, voilà. Hein, mais l'inversion, on n'est pas fait pour pousser des landaus. Hein, après, on s'étonne que la fécondité baisse en Occident. Enfin, ces scènes démentes, je voyais l'autre fois, et je me suis arrêté pour leur dire, des flics qui étaient vers le quai Branly munis de lasers spécialement développés pour emmerder le monde. Hein, et devant eux, sans s'arrêter, des cyclistes coupaient les feux rouges, remontant sans s'interdire, etc.
Et vous voulez sur les trottoirs.
J'ai dit donc, ça c'est pas une infraction, ça, mais on n'a pas vu, ça fait 50 mecs qui vous passent devant. Et ils sont fous furieux quand on leur dit ça, ils savent pas quoi dire. Hein. Ouais. J'ai fait la même remarque à un gars rue de Varennes, en disant ça, il y avait un type qui venait cyniquement de passer au feu rouge. Il me dit, on n'est pas là pour ça. J'ai dit, tiens, c'est curieux, hier vous foutiez des contraventions à 7h-5, 7h, 19h, 18h, 55, aux gens qui étaient garés. Là, vous êtes... Alors, type visiblement, il y a la réaction de celui qui est pris en faute, quoi, avec, vous savez, ce visage à la fois veule et hargneux et pas content, mais ne savant pas quoi dire.
Oui, ça, c'est un constat de souffrance. Hein.
Ah, c'est insoutenable.
On a l'impression que ces gens sont... que les gens, que beaucoup de Français ou beaucoup d'habitants de notre pays sont malades. Ils sont pas clairs dans leur tête. Ils ont des comportements, des gestes anormaux, des comportements bizarres, des propos incohérents, des pensées contradictoires et paradoxales. Et ça, c'est un constat. Maintenant, le diagnostic. Comment le neuropsychiatre explique-t-il
ça dépasse la neurophysiologie, parce que là, on rentre dans une application de l'inversion de la métaphysique ou, disons-le, de la théologie. C'est pour ça que je vous citais ce remarquable bouquin de Marcel de Corte, La fin d'une civilisation, auquel je l'ajouterai La cité dénaturée de Claude Paulin et Claude Rousseau, qui sont des coupes transversales dans la civilisation française actuelle et qui sont d'une importance essentielle en même temps que terrifiante. En fait, ce qui se passe en ce moment, c'est que, comme dit Saint-Hildegarde de Bingen, auquel il faut accorder la plus grande importance, elle disait, je voyais à cette époque la nôtre la viridité se retirait par des milliers de canaux. C'est-à-dire la vie de Dieu, l'esprit, c'est ce que dit exactement Marcel de Corte. Il dit à la page de 48 de ce livre, l'esprit se retire, lui et ses productions, hors du champ relationnel. C'est-à-dire que l'esprit se retirant, il ne reste plus rien. Notamment, il ne reste plus les dons de l'esprit qui sont à la souplesse. Rendez souple ce qui est dur. D'où l'attitude des gens qui sont maladroits, empruntés, qui se cassent la gueule, qui laissent tomber leurs enfants par les fenêtres et qui en même temps n'ont aucune maîtrise d'eux-mêmes. Je vous racontais cette histoire dans un garage où il y avait une mère de famille qui, comme d'habitude, téléphonait, fumait. Je sais pas si en même temps elle se mettait une plume quelque part pour occuper. Bon. Au dernier moment, j'ai réussi à arrêter un de ses enfants. Complètement fou. Enfin, tous les enfants sont des nés à moitié fous, mais lui, il était spécialement. Je l'ai arrêté in extremis d'une voiture qui sortait, je lui ai littéralement sauvé la vie. Et cette espèce d'abruti se met à engueuler ce petit. Vous savez, comme les gens qui disent à son chien, mais enfin, mais tu n'as pas vu où tu te trouves, mais regarde, c'est le général mouche à bœuf qui passe. Bon, c'est le même genre. Et elle commence à engueuler. Je dis, mais espèce de... Alors là aussi, je vous dirai pas ce que j'ai dit, c'était pas très... J'ai dit, mais c'est vous qu'il faut engueuler. Hein, vous êtes en charge d'un petit qui est à moitié fou. Et la dame a commencé à gueuler, elle était pas contente. Alors là, j'étais encore moins content, quoi. Hein. J'ai pris à témoin. Vous savez, c'était un garage, il y avait des Tunisiens, j'ai des Schuffel Heineck maintenant, etc. Et je lui ai dit, mais madame, on devrait vous interdire d'engendrer des enfants. Hein, vous êtes un danger public et en plus, vous êtes une imbécile. Hein, et contre ça, les dieux eux-mêmes sont désarmés. Comme... Et ces constatations, vous-même, hein, vous en avez fait de belles, celles qu'on s'est échangées par téléphone, sur les baigneurs. Enfin, l'esprit quittant le monde n'existe plus, il n'est que la projection d'abstraction.
On a une impression, l'impression actuelle du monde, je ne sais pas, Père Arouet, vous circulez beaucoup aussi, est-ce que vous avez la même impression d'évoluer dans un monde de démons?
C'est-à-dire, oui, c'est surtout, on le voit aux yeux. Quand on regarde les yeux des gens, ils ont des yeux, mais c'est exorbité. Ouais. Et ça, quelquefois, ça fait peur. Parce que on cherche derrière ces yeux ce qu'il y a. Et on a l'impression, vraiment, je tombe pas là-dedans facilement. Je suis plutôt un homme d'espérance. Enfin, vous me connaissez. Ouais. On a l'impression d'avoir la présence du prince de ce monde. Ouais. Et après, avec les paroles qui vont avec. C'est-à-dire que si vous avez un contact avec ce masque que vous avez devant vous, c'est-à-dire que les paroles correspondent au masque. Il n'y a pas de contradiction. On a l'impression que c'est le diable qui parle pour certaines personnes. Et nous qui sommes prêtres, et je crois qu'on a une grâce sacerdotale spéciale, on le ressent, je dirais encore plus que les autres, parce que, justement, on est confronté à ce monde de ténèbres, et là, quand on sent la présence des anges, on sent la présence du monde invisible, des saints, des martyrs, etc., enfin, je l'espère, pour tout prêtre digne de ce nom, surtout à la consécration, quand il célèbre la messe, et en même temps, quand on se promène et qu'on se retire d'un village paisible comme le village de Riaumont, et hier et avant-hier, j'ai eu l'impression de, vous savez que j'étais agressé, enfin plusieurs fois, d'entrer en contact avec des gens qui étaient diaboliques, et c'est terrible. Et quand on va au feu, comme je l'ai été, j'étais au feu deux fois, on est quand même vainqueur, parce que sans doute qu'il y a des gens qui prient pour nous, et puis on a une sorte d'armure, même si on est des pêcheurs, et on met quand même l'ennemi en fuite. C'est-à-dire que si la chrétienté était debout aujourd'hui, le diable reculerait.
Ouais. C'est évident.
Et on a cette impression-là. Mais ça porte sur les choses les plus dérisoires. Ça porte sur le vacarme, mouvement...
Mouvement maladroit, la position. On voit bien, si on retourne à la neurophysiologie, que les cartes cognitives qui évaluent la distance, c'est-à-dire le maintien de soi, sont abîmés dans le cerveau droit de ces gens. J'ai remarqué maintenant que vous êtes tout le temps frôlé à un millimètre dans la rue. Tout d'un coup, il y a quelqu'un qui passe à côté sur des trottoirs immenses.
Je n'en peux plus de ça.
Et chaque fois, je m'auto, j'ai dit, tu veux te ramasser dans la gueule, quoi. Hein, non, mais c'est un autre qui me dit, c'est à l'école militaire, en vélo, il me touche en vélo à fond. Il me dit, ne vous énervez pas. Mais je dis, dans une seconde, tu vas être dans le coma pour un mois, quoi. Hein. Bon, et malheureusement, ça coûte cher après de taper sur les gens. Mais là, ces attitudes, je vais peut-être faire de la peine à certains, mais la bicyclette est un instrument grotesque. Et comme je le voyais ce matin passer dans une rue d'un ministère quelconque, un type longiligne en costard et pédalant d'un air d'une espèce d'air digne étrange, et je pensais à ce que disait Jacques Perret, qui disait l'association d'un individu grand et d'un vélo évoque immédiatement une entrée au cirque Medrano. On s'attend à le voir monter sur la selle avec des petits drapeaux. Et vous savez, dans le camp prisonnier où l'inspection du matin est faite par le Feldwebel qui arrive à vélo avec des gants tricotés. Où un prisonnier crie, voilà, Félix Potin, les gars, passez les commandes. Bon, c'est littéralement insoutenable, et en plus c'est des instruments à multiplier la malignité humaine, parce que ça pousse à l'infraction.
Vous savez, c'est drôle ce que vous dites là, parce que j'ai eu un jour une conversation avec François Bruniot, qui pourtant n'est pas suspect d'avoir la moindre animosité contre le vélo, peut-être un peu plus contre la bicyclette. Et il disait que ce qui avait bouleversé littéralement la campagne bretonne, c'était l'apparition de la bicyclette qui avait rendu l'adultère possible.
Ah, c'est joli, c'est fort.
Parce qu'avant, les gens ne circulaient pas, ils étaient dans leur village, donc les femmes se tenaient, les hommes aussi, ils étaient bien obligés. À partir du moment où on pouvait prendre la bicyclette pour aller se rencontrer dans une meule de foin à 12 km et rentrer pour préparer la soupe, hop, j'ai trouvé cette idée extraordinaire, l'idée de la responsabilité de la bicyclette dans la généralisation de l'adultère. C'est quand même intéressant. Voilà. Mais il y a de tous ces gens, tous ces engins, en fait, qui sont des engins non naturels, préternaturels. C'est vrai que la bicyclette, on en parlait, il y a un côté presque diabolique.
Et caricatural. Oui, le pédalage étrange qui transforme un mouvement dans un autre mouvement. Enfin, moi, vous savez que j'ai des idées un peu bizarres, mais... Le terme hébreu qui veut dire la bicyclette, c'est un duel sur Ophanaïm, c'est-à-dire c'est le même mot que les Ophanim, qui sont les démons des roues.
Les ovnis.
Les ovnis.
C'est même mot.
Absolument, tout ce qui est circulaire, comme vous disiez, Galgal, hein, c'est la rotation du zodiaque, c'est la rotation indéfinie qu'Adam engendre par le péché originel, ne serait-ce que les cycles mensuels des femmes, ça c'est une malédiction, hein, l'immobilité, la perfection d'être, dit saint Thomas d'Aquin, c'est évident, hein. Et ce qui se rapproche le plus de l'immobilité, c'est l'élégance dans les gestes, ce qu'on ne retrouve plus. Vous savez qu'un sujet qui me tient beaucoup à cœur, enfin il y en a deux, hein, c'est les arts martiaux, soit occidentaux, soit japonais, hein, parce qu'ils sont plus près du Moyen-Âge, mais aussi les danses, dont le docteur Nguyen a parlé de manière admirable. Et vous savez que moi, j'ai envoyé beaucoup de gens chez mes amis de Roland et Valérie, chez Georges et Rosie, parce que c'est des professeurs admirables.
Georges, c'est un cours de danse.
C'est un cours de danse qui est mythique. Et les deux professeurs qui sont là sont merveilleux et d'un niveau technique extraordinaire. En plus, Valérie, la professeure, est à la fois belle comme le jour et d'une compétence inégalée. Et on voit bien que les gens qui arrivent là sont raides comme des passes lacées, et au bout de 6 mois, ils sont heureux comme tout, parce que, comme l'a dit le docteur Nguyen, ça développe une souplesse harmonieuse qui est la qualité même du cerveau. La mort, c'est la raideur, quoi. Hein. Rendez souple,
rigor mortis.
La rigor mortis, c'est évident. Hein. Et le docteur Nguyen montrait bien comment les rythmes et les transes étaient exactement le contraire de ce qu'est l'Occident. C'est des rythmes, ces sacs de pommes de terre qui se remuent. C'est des rythmes fondé sur des séquences numériques pour aller conquérir les subroutines sous-corticales et pour rendre les gens complètement fous, alors que quelqu'un qui danse une valse viennoise ou une valse anglaise extrêmement élégante, qui a mis 8 mois pour apprendre la chorégraphie, c'est quelque chose de somptueux. Et c'est en même temps des gestes élégants. Même chose pour l'escrime ou pour les arts martiaux ou pour le dressage des chevaux, par exemple. Là, c'est des activités typiquement aristocratiques. La danse elle-même étant David dansé autour de l'arche pour rendre grâce à Dieu. Oui. Là, on voit ce mot apparaître très souvent aussi dans l'Ancien Testament. Ce que plus personne ne peut faire. Cette maladresse, c'est bien. Ce qui donne la souplesse, c'est le lobe frontal, c'est le cortex, c'est la partie la plus élevée. C'est ce qui va dégénérer chez Cain. Hein, il va être marqué par quelque chose qui touche son front. Alors
d'ailleurs, il a le visage qui...
Voilà.
L'expression dans l'Ancien Testament, c'est
ça se met à bouillir.
Sa face vers le sol.
Il Paul Faneira, la main, il peut... Pourquoi ta face tombe-t-elle, quoi.
C'est ça.
D'un coup, le truc s'écroule. Alors que l'importance du lobe frontal est montrée par la plaque d'or chez le grand prêtre. À l'époque où le Christ n'est pas venu racheter l'humanité, on est des êtres en réanimation, ils ont besoin de protections qui sont naturelles. C'est le rôle de l'éphod, par exemple, et puis le rôle de cette plaque d'or qui montre que c'est à cet endroit-là, sur le front, que se passe quelque chose. Les gens de cette époque ont réussi d'une manière extraordinairement habile à casser le cortex des peuples et en faire ce que disait l'autre tête à claque d'une chaîne de télévision. Hein, je prépare des cerveaux pour Coca-Cola. Pour El Chitane, que Saint-Michel le chasse au fin fond des enfers. Quoi. C'est évident et c'est terrifiant. Et c'est, en même temps, c'est exaltant parce que c'est une application directe, c'est une apologétique grandiose. Il y en a abruti qui avait dit aussi notre père qui est aux cieux, restez-y. Dieu lui a dit très bien, ben j'y reste.
C'est Prévert.
C'est Prévert. Il a dit il faut que j'y reste. Ben voilà ce qui se passe quand Dieu reste pas. la vie n'existe plus, où elle va dans probablement ce minimum de vie qui est dans l'enfer, puisque ils peuvent pas ne pas exister, mais ils existent d'une forme qui est informe, d'un truc qui grouille tout le temps. C'est cette impression d'immonde grouillement qu'on a dans les rues.
C'est les rappeurs, c'est les taggers, voilà.
Et je pense que c'est pour ça que l'Église veut toucher la tête, les bénédictions, les petites croix sur le front, les impositions des mains, c'est bien pour faire une guérison et pour que la grâce sanctifie l'intelligence, l'esprit.
C'est clair. C'est évidemment clair. C'est la Sainte Vierge écrase dans le proto-évangile, elle écrase la tête du serpent parce que c'est là qui est le centre du commandement. C'est évident. Hein.
C'est l'écrivain Paul Morand qui appelait les jeunes hommes modernes des pousselandos.
Ah, c'est magnifique.
Paul Morand.
Moi, j'avais entendu ça chez le commandant Morin, dans l'histoire du premier REP, propos du commandant Morin, qui est devenu général, dans Loulou Martin, je crois, Morin.
Ah, c'est Morin,
oui. Où sergent disait au régiment, c'était le genre, c'était pas pousseur de landau, c'était dans le contrat familial, quoi. J'ai reçu un petit message d'un collègue où j'étais, quand j'étais externe à l'hôpital du Mustapha d'Alger. Très sympa, où il me suggère de parler des effets dévastateurs sur le cerveau des téléphones portables. C'est vrai que c'est à la fois dévastateur parce que ça rend les gens fous furieux, que c'est un instrument d'angoisse, de brisure de l'attention permanente, quoi, hein, cette qualité qui est la qualité du guerrier à la fois dans la guerre de jungle, mais en même temps contre le démon. Soyez sobre et vigilant, hein, c'est-à-dire que le type qui est totalement concentré, sans une pensée, hein, comme ont développé Vagre le Pontique et les autres pères, qui s'attend et qui prie la Sainte Vierge et qui bouge pas, les autres, ils vont avoir du mal à rentrer, quoi. Hein, mais celui qui est divisé contre lui-même, qui est partout à la fois, c'est impossible. Donc, ces téléphones-là, où constamment c'est une prime aussi à l'inquiétude et à la pression de l'instant. Je premier reconnaître, quand je m'en sers, j'ai 80% des appels que je passe, ils sont inutiles. Je pourrais être à la maison.
Sauf quand on s'appelle quand même.
Sauf quand on s'appelle.
Ça m'est très utile. Donc, Marcel de Corte, dans son livre, il analyse la situation, il apporte des explications qui sont d'une intelligence, pénétration, d'une pertinence extraordinaire.
J'ai peut-être pas eu assez de temps pour faire un résumé complet du bouquin, et j'engage vivement les personnes qui voudraient aller acheter ce livre, qui se trouve notamment, principalement la librairie Gaîtier, qui est en haut de l'avenue Théophile Gautier. D'ailleurs, il y a un choix de livre absolument merveilleux. Et il dit que une partie importante, notamment, il dit dès qu'une civilisation commence à perdre les éléments qui la constituent, c'est-à-dire la paix, la tranquillité, la santé, immédiatement, ces choses deviennent l'objet de formulations. Alors qu'avant, ça allait de soi. Personne ne parlait de communication, de machin, d'humanitaire. C'est comme le moteur des Rolls. C'est plombé, il n'y a personne qui va jamais voir, ça marche tout seul. Si ça ne marche pas, on va chercher un mec en Angleterre qui vient réparer. Or, cette civilisation, plus elle parle de communication, plus elle parle d'amour, de machin, ça veut dire qu'au contraire, ceci est définitivement perdu et irrattrapable, d'après Marcel de Corte. Une fois que la vie est partie, c'est fini. Hein, vous savez, c'est comme le point, l'apoptose, comme on dit en biologie. Hein, une fois que la cellule a basculé, que la vie n'est plus là, que l'énergie divine qui maintient en vie, il n'y a plus rien à faire, c'est foutu. Hein. Et au moment où on nous dit, par exemple, l'homme de l'Occident prend sa santé en main, il prend rien du tout en main. Au moment où on se préoccupe de la santé, c'est qu'elle n'est plus là. Hein. Pour tout le reste, c'est la même chose. Qui parlait de mouvement humanitaire il y a 5 ans ? Qui parlait de communication ? Ce mot n'existait pas. Hein. Pourquoi ? Parce qu'on parlait, on échangeait des choses. À partir du moment où on a des individus qui se heurtent comme des particules dans le mouvement brownien, qui sont incapables d'échanger deux paroles cohérentes, qui à la limite ne savent plus ce qu'ils disent, à ce moment-là, on développe des prothèses. Il suffit d'écouter, on en parle tout le temps, les radios. Et écouter une radio, c'est quelque chose d'insoutenable. Avant, c'était France Info qui avait la spécialité de recruter à peu près tous les défauts de la voix, ils les ont. Hein. Plus, évidemment, un style de français épouvantable. Maintenant, les autres se sont parfaitement alignés. Et j'ai remarqué que non seulement les mots sont pas justes, la construction n'est pas juste, mais la ponctuation non plus. Oui. Hein, vous savez, ce matin on évoquait cette façon de présenter le livre qui dit, le type dit, Dieu existe, je l'ai rencontré chez Fayard. Hein, voilà, c'est exactement ce qu'on entend. Hein. Voilà. Ces choses-là sont distrayantes, si vous voulez, sur le papier, mais ils montrent donc que cette poussée d'idéalisme, c'est-à-dire que notamment la dimension religieuse étant coupée, ça c'est un passage extraordinaire. À ce moment-là, il ne reste plus que des automatismes. C'est-à-dire qu'il n'y a plus rien, c'est les circuits sous-corticaux. Hein, la partie de l'intelligence. Hein, Dieu, il est dans le cœur et dans le cerveau, ça c'est clair. Hein. Une fois que ça s'en va, il reste les automatismes sous-corticaux. Ça donne quoi? Ça donne que même dans l'antiquité païenne, ils n'auraient pas eu l'idée de faire des marches silencieuses. Hein, ou je dirais des sit-ins agités aussi. On pourrait faire l'inverse. Oui. Hein, bon, il y a plusieurs possibilités. Hein, on va faire une marche silencieuse pour protester contre la grêle, contre le malheur des temps. C'est des automatismes d'abrutis. C'est les Shadocks. Enfin, c'est génial, les Shadocks.
Marcher contre le sida, c'est idiot.
Voilà. Hein, voilà.
Marcher contre le sida, voilà. C'est idiot.
Les Shadocks pompés parce qu'ils se disaient que de toute façon, puisqu'il n'y avait pas d'autre chose à faire, c'est ce qu'ils font. Hein. Les gens marchent. Hein. Oui. C'est une espèce de caricature psychique absolument terrifiante, hein, de des pèlerinages où on voit que c'est des êtres qui. Des comportements qui sont même pas animaux. Les animaux, ils ont une santé naturelle. Hein, ils sont pas cruels. Hein, ils bouffent. On voit toujours en Afrique, tu vois le lion, là, il est tranquille avec la girafe s'il a pas faim. Hein,
oui,
on est d'accord. Bon.
Oui.
Et l'autre domaine qu'il étudie, c'est le sexe, qui est quelque chose de terrible parce que on nous a bassiné sur la libération sexuelle. Il y en a partout, quoi. Mais c'est un sexe d'impuissant total. C'est une décalcomanie. Comme disait je sais pas qui, sur un crochet peint au mur, on peut pas accrocher une casserole.
Hein, il y a même que... peinte.
Même pas. Hein, même peinte. Hein. Et en réalité, c'est... L'homme moderne, il aime pas une femme. Quand vous aimez une femme, c'est quelque chose de merveilleux et transcendant, voire le cantique des cantiques, mais c'est pas ça. C'est, comme dit Bergson, c'est une idée aphrodisiaque d'excitabilité qui ne peut jamais se réaliser. De même que la télévision, truc comme la télévision, des images abstraites qui n'apportent jamais rien parce que c'est toujours du vide. Hein, c'est une inflammation électronique. Ben là, c'est la même chose. Le résultat, c'est que les hommes sont devenus des pousseurs de landau. Les femmes sont des êtres agressifs qui n'ont, mais pas le moindre once de charme. Enfin, même les filles qu'on met sur ces revues porno, elles ressemblent à rien, quoi. C'est des espèces de boudins absolument monstrueux. Le résultat, c'est une baisse de la fécondité en Occident. Et si je pouvais faire référence à ce que je vois depuis des années dans ma pratique médicale, par rapport à ce qu'ils disent, le résultat, il n'est pas brillant. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que les sociétés vigoureuses comme au Moyen-Âge, eux, ils n'en parlaient pas. Ils s'envoyaient en l'air et puis quand ils étaient bien tristes, ils avaient demandé pardon à l'évêque, ils se tapaient 3000... Ils faisaient 3000 kilomètres jusqu'à Saint-Jacques pour demander pardon au bon Dieu. Ça, c'était des mecs. Hein, ou alors ils passaient 30 ans dans une tour comme Siméon, le styliste. Hein. De nos jours, quand ils ont un petit ennui, ils vont chercher une cellule d'aide psychologique, hein, de soutien psychologique.
Et ils organisent une marche
silencieuse. Une marche silencieuse pour le droit des papas à garder les mamans. Quoi.
Et encore la marche silencieuse récemment, quand il y a eu cette tragédie épouvantable des petites filles,
oui.
Des jeunes filles qui ont été assassinées. Il y a une des familles, pas celle de Jeanne-Marie,
oui.
Mais celle de l'autre petite fille, qui est intervenue parce qu'à la fin de la marche silencieuse, quelqu'un avait brandi une banderole appelant au rétablissement de la peine de mort, et les parents sont allés voir cette personne en disant non, pas, mettez pas cette banderole, il faut pas politiser cette marche silencieuse.
Quelle lâcheté.
Je pas en quoi politiser, qu'est-ce qu'il y a de politisant là-dedans? C'est tout simplement une évidence, la peine de mort, les assassins l'ont rétablie, alors il n'y a qu'à l'appliquer. Voilà, le bouquin de Corté, on peut rappeler son titre, et on en reparlera.
Il y en a un autre hein, qui s'appelle L'intelligence en période de mort, la fin d'une civilisation. Donc, je rappelle qu'on peut le trouver chez notre ami.
Oui, la librairie Gaëtier, qui voilà. Est juste en face de l'église, enfin presque en face de l'église d'Auteuil.
Absolument.
Comment écrivez-vous le nom d'auteur?
De Corté, D-E, plus loin, c'est
O-R-T-E.
Marcel de Corté.
Marcel.
Chauffe Marcel, bien entendu.
Évidemment.
Sans dire. Monsieur l'abbé, non, mon père, décidément, c'est très curé ce soir. Hein. Merci.
C'est très résistant, surtout.
Donne le numéro de Citadelle. Alors justement, bon, en parlant de résistance, c'est vrai, vous êtes à la tête d'un véritable organe de résistance qui s'appelle le village d'enfants de Riaumont.
Oui, c'est un village gaulois, mais je crois qu'il est plutôt mérovingien.
Bon, mais gaulois, c'est déjà très bien. Hein. Mais mérovingien, c'est mieux parce qu'il y a en plus du bon Dieu là-dedans. Les gaulois, c'était moins sûr. Hein. À l'époque, c'est pas garanti. Et donc, vous venez régulièrement faire le point. Je voudrais vous demander donc comment ça se passe à Riaumont, comment ça se passe au Guermeur, parce que non content d'avoir Riaumont, vous avez créé un village, ressuscité un village. En Bretagne. Alors, et puis, comment ça se passe pour l'église? Car, comme si ça ne suffisait pas, vous construisez une église. C'est pas une petite église. Alors voilà, dites-nous comment se passent les choses, comment tout ça tourne, etc.
Oui, bien sûr. Et ben, écoutez, ce qui est extraordinaire, c'est que beaucoup d'enfants ont campé avec nous au mois de juillet. Vous savez qu'il y en avait 500. Tout s'est très bien passé, sans problème. Les scouts étaient en Vendée au parc Soubise. Les louveteaux, les guides, les louvettes étaient au Gerver. Donc tout va bien, tout marche bien. Mais à surprise, c'est qu'au mois d'août, on a 35 ou 40 scouts qui sont venus travailler au village de Riemont. C'est-à-dire qu'ils ont fait un deuxième camp, sachant que l'école était en danger pour des questions de sécurité, eh bien, c'était un festival de chantier et de prière en même temps. C'était travail, prière, patrie, et c'était et famille, puisque c'est la famille de Riemont. C'était magnifique. C'était les garçons avaient des visages. On a parlé des visages affreux, tiraillés, diabolisés. C'était extraordinaire. C'était très 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 beau. Et le père Alain, notre prieur, était vraiment très 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 content. Et on a une échéance pour le 1er janvier. Il faut que pour le 1er janvier, eh bien, on ait terminé au moins les 90% des travaux de sécurité pour l'école. Alors ça, c'est un premier point positif de savoir. Alors qu'on dit que les enfants sont de moins en moins généreux, que des garçons ont pu faire un camp en juillet et revenir plus de 15 jours au mois d'août pour donner un coup de main à Riemont. Ça, c'est nouveau. On ne l'avait pas encore vu. Et ça, c'est un signe d'espérance pour le village de Riemont.
Alors maintenant, l'église, vous avez construit la tour.
Alors, on a fait la tour Saint-Maurice, oui. Avec un hôtel qui est orienté vers le Golgotha tout en haut de la tour. Et donc, on peut pratiquement déjà dire la messe pour la protection du chantier. Alors, le gros problème, c'est qu'on a fait le toit. Toutes les poutres sont faites. C'est de la vieille charpente à l'ancienne. Mais on n'a pas de quoi couvrir. Il faut qu'on nous envoie quelques milliers d'euros pour couvrir pour l'hiver. Autrement, eh bien, la charpente va être sous l'eau. Et ça, c'est terrible. Alors, ce que je voudrais dire pour l'Église, mais je m'adresse qu'à deux ou trois personnes. Il y en a des milliers qui écoutent, je pense, peut-être plusieurs centaines de milliers aujourd'hui. Il y a deux ou trois personnes, peut-être, qui ont ce qu'il faut pour parrainer l'Église, c'est-à-dire les porches, c'est-à-dire les pierres pour les porches. Hein, il y a, par exemple, pour 20 000 euros de pierres pour sculpter les porches. Les tympans sont magnifiques. Ce sont des sculptures sur Saint-Jean-Baptiste de toute beauté, et il faut monter la pierre. Alors, j'ai déjà dit ici, je crois qu'on a eu 1400 tonnes de pavés, par la ville de Paris, par des mystères insondables. On a eu des bordures de trottoirs, des granites roses, etc. On a tout ce qu'il faut, mais il nous faut des maçons. Alors, là, je m'adresse encore à deux ou trois personnes qui sont peut-être à la retraite et qui sont des maçons. Et ils peuvent venir un mois, deux mois, je dirais sans contrat, un contrat d'honneur avec nous, ils seront bien sûr logés, nourris, etc., travailler comme autrefois on travaillait dans les cathédrales, parce que certains bien sûr gagnaient leur argent, mais d'autres le faisaient pour l'amour du bon Dieu uniquement. Et s'ils m'entendent, si leur cœur vibre, bien sûr, et s'ils peuvent le faire, il ne s'agit pas d'abandonner une famille, s'ils sont libres, eh bien, ils peuvent venir travailler au chantier. Ça, c'est très important. Et puis, je passe sur la vie du village de Riemont. Bon, il y a l'affaire des frères Axas.
Oui, alors ça, on va en parler tout de suite, mais je voudrais encore dire un mot. Vous cherchez une voiture? Si oui. Quelqu'un a une voiture...
Oui, à Foncombeau, il y a peut-être 200 ou peut-être 250 scouts de Riemont. D'ailleurs, il y a des listes d'attente, ce qui prouve que les scouts de Riemont sont aimés. Eh bien, il manque une voiture pour le frère Régis, pour ses déplacements. Une voiture qui n'est pas trop abîmée. Et puis, si possible, à chaque fois on le dit, plutôt diesel qu'essence. Voilà.
Et alors, pour finir, je voudrais que vous nous racontiez, alors très brièvement, parce qu'il ne reste plus beaucoup de temps, l'histoire de Louisette.
Ah oui, c'est une histoire...
C'est une histoire extraordinaire.
On entend toujours dire qu'il y a des enlèvements, que certaines de nos filles en France sont kidnappées et vendues en Algérie. Alors, je reçois une lettre d'une ville d'Algérie, je la nomme pas parce que cette pauvre fille peut avoir des conséquences terribles sur elle-même, c'est-à-dire que elle a été vendue par son père il y a 30 ans et elle a eu des sévices, elle a été séquestrée et elle arrivait à faire parvenir une lettre au village d'enfants de Riemont pour dire qu'elle est vivante. Or, j'ai eu ses trois frères Saïd Aksas, Amouch Aksas et Amar Aksas, qui sont d'origine musulmane, qui ont été baptisés d'ailleurs juste avant d'arriver chez nous, hein, et qui sont des garçons que j'ai élevés. Et alors, ce qui est extraordinaire, c'est que l'un d'eux, à Amar, un jour voit passer la Land Rover de Riomont, où c'est marqué « Scout de Riomont, Jeanne d'Arc ». Il l'a poursuivi pendant 12 kilomètres en faisant une enquête. Il m'a rejoint, il m'a embrassé, et il m'a dit « Demain, mon père, pour vous remercier pour tout ce que vous avez fait pour moi, eh bien, je vais vous conduire une tronçonneuse ». Et le lendemain matin, il est parti peut-être à 5 heures du matin, il a fait 13 kilomètres ou 12 kilomètres à pied, et il m'a remis cette tronçonneuse. Et pour moi, vous savez, le travail d'éducateur, il est dur. Il y a des moments où on n'a aucune récompense. Mais quand vous êtes éducateur religieux et que vous recevez une tronçonneuse d'un arabe qui a été christianisé par Riomont en remerciement, et que vous apprenez que sa pauvre sœur a été kidnappée pendant 30 ans, eh bien, je recherche les frères Aksas. Voilà mon message.
Alors, le message
aujourd'hui.
Les frères, si quelqu'un connaît ou si nous écoute, on ne sait pas, si quelqu'un connaît les frères Aksas, qui sont des anciens de Riomont, voilà, qui demandent, dites-leur de contacter le père Argouache, qui a des nouvelles à leur donner de leur sœur Louisette. Merci mon père. L'adresse de Riomont, rappelez-la rapidement.
Alors, l'adresse de Riomont, village d'enfants de Riomont, boîte postale 28 62 801. Liévin, CEDEX. Alors, il y a un site, mais que je ne saurais pas lire, qui est en bas. Surtout, abonnez-vous à la revue.
C'est très facile, c'est riomont.net. Voilà. www.riomont.net. Les annonces, ma chère Victoria.
Un mot, vous retrouverez les aventures du marquis dans le Libre Journal.
Je suis désolé, Marc.
Oui, non, c'est pas grave, mais alors, abonnez-vous au Libre Journal, comme ça, à défaut de m'entendre, comme je dis que des bêtises, vous pourrez toujours me lire.
Mais la semaine prochaine, vous êtes avec nous.
Je ne sais pas. Non, je ne suis pas sûr. On verra.
Alors,
le chœur Montjoie-Saint-Denis fêtera la Saint-Michel, naturellement le mercredi 29 septembre à 20h, chez la Mère Agitée, 21 rue Campagne Première, dans le 14e, métro Raspail. Réservation souhaitée au 01 43 35 56 64. Participation au dîner 25€, vin compris. Et par ailleurs, le docteur Merlin se produira chez la Mère Agitée le jeudi 30 septembre à 20h30, même prix, même condition. Et Jean-Pax Meffray donnera deux concerts exceptionnels, les 1er et 2 octobre à l'espace Kino, dans le 15e. Des billets sont en vente à la librairie France Livre, 6 rue du Petit Pont, Paris 15e. Et puis, une auditrice nous a demandé à propos des tracts à distribuer pour le non au référendum, où elle pouvait s'adresser. Donc je rappelle, Monsieur Pierre Descaves, 77 rue Pigalle, 75 009 Paris, ou sur internet les www.ddfrance.com.
Merci. Alors Marquis, je suis désolé de ne pas vous avoir donné votre minute, mais je pense que c'était important de donner à l'abbé Laguérie le moyen de s'exprimer complètement.
Moi, je préfère avoir entendu l'abbé Laguérie que vous raconter mes petites...
Je vous propose de venir la semaine prochaine.
Je ne suis pas tout à fait sûr d'être libre, enfin je reste à votre disposition.
Vous êtes bien aimé. De toute façon, on peut vous lire dans le Libre Journal.
Comment ?
Merci, chers auditeurs, de votre patience et de votre audition, et le rôle des auditeurs. Je vous dis à la semaine prochaine et que Dieu nous garde.
Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national. À Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS, et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous venez d'entendre le Libre Journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 15 septembre 2004 de 18 à 21h, en différé jeudi 16 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce Libre Journal a été réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 40€. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de...